Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, on accueille Chris, le créateur de la chaîne Poisson Fécond et de l'entreprise qui tourne autour et qui s'appelle Le Kundar. Chris a plus de 2,8 millions d'abonnés aujourd'hui sur YouTube et il a surtout tout autour un tas de projets. Il a créé des jeux vidéo, il a créé des autres chaînes, des projets de crowdfunding, etc. qu'il a fait autour de cette chaîne. Et comment est-ce qu'il utilise cette chaîne pour monter des projets annexes? C'est ce qui m'intéressait aujourd'hui. Je voulais parler du succès sur YouTube, de comment est-ce qu'il avait abordé la croissance de sa chaîne, comment est-ce qu'aujourd'hui il aborde la création de scripts. Et surtout, il y a eu beaucoup d'interviews avec Chris qui ont parlé de ses débuts. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour passer de créateur solo indépendant et pouvoir faire rentrer de plus en plus de monde dans ce process créatif jusqu'à aujourd'hui avoir toute une équipe de gens qui écrivent et qui font les montages pour ses vidéos. Et on va parler beaucoup, du coup, de recrutement, de délégation, de comment est-ce qu'on va au-delà du créateur solo pour construire cette entreprise plus grande qui peut survivre au-delà de son créateur individuel et qui peut aussi permettre à son créateur individuel d'aller chercher des projets annexes comme le fait Chris aujourd'hui. Sans plus de transition, je vais écouter ma conversation avec Chris, le créateur de Poisson Fécond. Salut Chris et bienvenue sur le podcast.
Eh bien merci Stan, je suis vraiment ravi depuis le temps que je regarde tes vidéos.
Ouais, c'est un plaisir de t'avoir, surtout parce que, comme je te disais en off juste avant de commencer, je suis vraiment à un point où je me pose pas mal de questions sur comment gérer la chaîne YouTube, notamment en termes d'équipe, de délégation, de rédacteurs, etc. Et en fait, ça fait partie de ces problèmes. J'y réfléchis pas mal, tu vois, en termes d'une personne qui fait des formations. Et parfois, t'as un problème et tu dis, mais en fait, personne ne parle vraiment publiquement de mon problème. C'est un truc qui concerne suffisamment peu de gens pour qu'en fait, il y ait peu de gens qui en parlent. Et toi, t'es une des rares personnes en fait qui a parlé publiquement de cette question de comment est-ce que tu fais pour monter ta chaîne YouTube avec des gens qui travaillent pour toi et toute une équipe et comment est-ce que tout ce process fonctionne. Donc je suis vraiment intéressé pour creuser là-dedans avec toi.
Mais grave.
Juste avant de commencer ça, je veux parler simplement un peu de ta chaîne. Et tu évoquais dans une autre interview le fait que tu es sur un créneau qui est en fait un créneau assez spécifique où tu fais des sujets, où tu essaies d'apprendre des choses aux gens, etc. T'es pas sur du pur divertissement, mais d'un autre côté, t'es sur quand même un modèle où tu cherches des vidéos qui peuvent toucher un grand nombre de personnes en faisant des centaines ou un million de vues à chaque fois. Comment est-ce que tu réfléchis à qu'est-ce qui fait une bonne vidéo pour la chaîne Poisson Fécond ?
Il peut y avoir plusieurs critères évidemment, mais du coup c'est nul de dire ça, mais essentiellement je pourrais dire au niveau des bonnes vidéos, en réalité c'est bon, comme on peut s'y attendre, c'est pas évident à obtenir du coup une bonne vidéo, mais du coup c'est en fait c'est la conjonction en fait de plein de facteurs. Par exemple, notamment, alors dans notre cas, du coup, ça va être le script, ça va être du coup le tournage, ça va être du coup le propos. Mais essentiellement, en fait, une bonne vidéo, si je pouvais résumer, ce serait du coup un bon titre et où le contenu va suivre ce titre. Parce que ça, c'est un truc que je répète tout le temps, même quand je fais mes formations ou mes coachings, du coup, pour des gens, c'est que, bah, à chaque fois, il faut que, du coup, arrêtez de penser à votre putain de vidéo avant d'avoir réalisé votre titre. Ça paraît contre-intuitif, paradoxal, mais en vrai, c'est plus comme ça que les choses peuvent bien fonctionner, même si c'est pas évident. C'est-à-dire que si vous trouvez un titre qui est formidable, bon, en fait, votre vidéo n'aura qu'à suivre. Vous aurez juste à simplement répondre au contenu. Je vais te donner un cas concret. Par exemple, nous, par rapport à une vidéo qui avait bien marché, ce serait, alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'était l'homme le plus intelligent du monde. Et du coup, le titre, on l'avait trouvé avant. Ça arrivait pas tout le temps à l'époque, mais maintenant, on procède beaucoup comme ça. On trouve les titres avant le contenu. Même si on sait grosso modo de quoi on va parler, on se base sur le titre. Et du coup, l'homme le plus intelligent du monde, c'est simple. On parle de sa vie et de pourquoi il est intelligent. Fin. Et du coup, si on fait ça, même s'il y a des astuces et tout pour augmenter les watch time, bah du coup on sait que les gens ils vont regarder parce qu'ils ont cliqué, parce qu'ils veulent voir le plus intelligent du monde. Il pourrait y avoir des tas d'autres exemples en fait, mais le plus important c'est d'avoir un titre qui marche. Et les titres qui marchent, ça va se baser le plus souvent en fait sur des sortes de biais humains, par exemple il y a le biais des chiffres qu'on avait souvent vu dans le passé et moi que j'avais un peu popularisé avec les trucs à Chris, machin, mais il y a aussi le biais de supériorité, les biais du coup de négativité, tout ça. En fait, il y a plein de biais, en fait, et plus on réussit à les utiliser intelligemment, et plus du coup les gens ils vont être attirés parce que du coup on appuie sur des ressorts dans leur esprit.
Et comment du coup est-ce que ces titres sont rédigés? Donc ils sont rédigés en amont, est-ce que tu vas écrire ou est-ce que l'équipe en l'occurrence va écrire beaucoup de titres? Moi par exemple j'avais déjà montré aux gens mais que pour certaines vidéos je pouvais écrire 10 ou 15 variations du titre pour trouver l'angle parfait, notamment quand L'anglais est assez subtil, tu vois, tu veux évoquer le truc sans trop en dire pour que ce soit pas extrêmement évident, donc il y a parfois un équilibre, et puis t'as pas beaucoup de mots, et tu veux potentiellement que les mots importants se trouvent au début pour qu'ils soient pas trop croppés. Comment est-ce que concrètement le titre est écrit? Est-ce qu'il y a beaucoup de variations? Est-ce que il y a une formule particulière que vous utilisez?
Bah ouais, c'est vrai que il me semble que toi, du coup, t'as pas des formats établis, donc du coup, c'est plus difficile. Même si on voit toujours l'angle d'attaque que tu essayes d'utiliser vis-à-vis du marketing, nous, on a des formats bien établis, et c'est bien pour ça, c'est qu'on s'emmerde pas, ou beaucoup moins, à trouver des titres ou à réfléchir à la formulation. Ça peut arriver, mais grosso modo, on a souvent évolué ou changé de process, et là, le dernier qui semble fonctionner, c'est que du coup, je dis à mon équipe, ils ont un document, un Google Sheet, et dedans, par format. Donc, il y a différents types de formats, les bulles 360, les ça fait quoi, machin. Bah, du coup, ils vont écrire toute une liste de titres et donc, du coup, sous-jacent donc de vidéos. Et moi, ensuite, je valide ou alors je restructure avec eux si besoin. Et donc, ça fait qu'on va avoir entre 10 et 20 titres, donc 10 et 20 vidéos qui sont déjà faits et notés. Ce qui fait qu'après, je leur dis, démerdez-vous, vous écrivez ça quand vous voulez vis-à-vis après des exigences qu'on a. Et donc, bah, les titres sont choisis à l'avance et ils sont pas si difficiles que ça à trouver. Souvent, en fait, mais peut-être on y reviendra, c'est que du coup, j'essaye que mon équipe soit le plus autonome possible. Ça m'énerve, moi, du coup, de revenir derrière eux ou alors, du coup, les materner et tout. Je perds patience et je commence à être désagréable. Non, mais bon, enfin, voilà, j'aime bien quand les gens sont autonomes et intelligents, compétents, tout ça. Donc, au début, il y a besoin de les former un peu plus. Mais sinon, après, c'est bon. Et donc, bah, ouais, honnêtement, pour les titres, ça va. Le plus dur, c'est de trouver un sujet qui va matcher avec le titre, mais en fait, ça peut paraître bizarre, mais on peut trouver des titres avant de rien connaître au sujet, toi, par exemple. Et c'est pas un problème.
Genre, ça serait cool de faire une vidéo sur et si la Terre était en forme de donut, et puis après, tu te dis, bah, on va bien trouver les réponses à cette question, quoi. Mais finalement, c'est plus important de trouver un bon angle sur la vidéo, un truc cliquable, que finalement d'avoir un bon sujet. Parce que si t'as un bon sujet de vidéo et que tu peux pas du tout amener les gens dessus, c'est compliqué de faire une vidéo qui marche. Alors que si t'as un...
Bah en fait, c'est
Ouais,
simple.
vas-y.
Tu vois, c'est que les histoires du bon sujet, je me suis souvent échiné avec ça. C'est que du coup, il n'y a pas de bon sujet, il n'y a pas de mauvais sujet. Alors à notre niveau, je trouve pas qu'il y en ait tant, tu vois. C'est qu'en fait, tous les sujets sont intéressants. Tous les sujets, bah du coup, quand tu vas voir la vidéo, tu fais, ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Même des trucs aussi merdiques que pourquoi les trains sont en retard parce qu'il y a des feuilles par terre, bah le sujet peut être intéressant. Mais c'est juste à partir du moment où on sait qu'il y a que des bons sujets, c'est-à-dire qu'à la fin, tu t'en retires que tu as été instruit, que tu as trouvé ça cool, bah en fait, il y a que des bons titres et des mauvais titres. C'est ça, en fait, le truc qui va te distinguer, en fait, de la concurrence, on va dire.
Ouais. Du coup, c'est intéressant parce que là, tu mets les deux, mais moi, je distingue, tu vois, le concept et le titre. Mais en fait, du coup, le titre contient le concept, mais parfois, j'ai un bon concept, mais je ne sais pas encore comment l'exprimer. Donc, du coup, je dis, bon, tiens, on va faire une vidéo sur le marketing de telle personne, mais en fait, je ne peux pas dire, cette vidéo vous parle du marketing de Booba, tu vois. Il faut que je trouve l'angle sur Booba ou faut que je trouve un élément particulier pour te dire, voilà, dans cette vidéo, tu vas apprendre un truc unique. Comme en fait, moi, mes vidéos, c'est souvent de te dire, en gros, le concept de mes vidéos, c'est que je vais t'apprendre un truc que tu n'imagines pas sur le marketing d'une personne que tu connais déjà. Donc si en fait dans mon titre, j'arrive pas à t'évoquer un truc nouveau ou un effet de curiosité, j'ai peur que les gens se disent, bah tiens, une énième vidéo sur une personne sur laquelle beaucoup de gens ont fait des vidéos. Donc faut toujours que tu vois que je trouve cette formulation. Mais c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps à trouver mes formulations parce que souvent, je joue dans le titre sur un espèce de concept et une espèce de révélation que je veux évoquer suffisamment pour créer une curiosité sur le concept, mais pas trop pour essentiellement spoiler l'ensemble de la vidéo, tu vois. Donc c'est un petit peu un équilibrage où faut que je donne un truc où tu dis what the fuck, mais en même temps tu te dis ah putain ouais j'ai envie de savoir la réponse. Enfin, pour moi un des meilleurs titres que j'ai écrit c'était sur PNL, c'était comment PNL est devenu une marque de luxe. Parce que tu vois je me suis vraiment cassé la tête sur tout le monde te dit PNL c'est des génies du marketing. Donc, si je fais une vidéo qui s'appelle PNL deux points les génies du marketing, c'est ce que tous les médias disent c'est des génies du marketing, mais t'expliques jamais pourquoi.
Carrément.
Et ce que je voulais, c'était de dire, en fait, moi, je vais t'expliquer pourquoi, mais pour que tu saches que je te dis un truc nouveau. C'est là où moi, je passe beaucoup de temps sur la formulation. Mais c'est vrai que si ton idée, en fait, c'est juste une question, c'est une problématique où c'est genre, bah tiens, le mec le plus intelligent du monde, bah, en fait, c'est suffisant.
Pas forcément, non, c'est pas forcément des questions en fait. C'est parfois, en fait, du coup, ton titre était excellent pour PNL parce que du coup, là, on le voit en fait quand tu le prononces, c'est que du coup, tu appuies et tu joues sur des ce qu'on appelle en hypnose des
Ouais.
ruptures de pattern. C'est-à-dire que, mais je pense que les gens ils vont comprendre quand je le dis, c'est que, en fait, tu dis quelque chose qui paraît bizarre. En fait, tu réussis à mixer trois éléments et c'est ça qu'on fait. quand on veut un titre qui fonctionne, c'est un truc connu, donc la PNL. Deuxième point, du coup, c'est quelque chose qu'ils vont apprendre, et donc du coup, pourquoi PNL, nananana, donc du coup, c'est une formulation qui les intéresse. Et troisième élément, qui est tout aussi important que les autres, c'est que du coup, tu vas à contresens de ce qu'ils pensent. Et donc là, comme tu le disais si bien, du coup, Stan, c'est pas pourquoi c'est des boss du coup du rap. Non, c'est pourquoi c'est une marque de luxe. Et là, les gens, ils font hein, et tu vois, ça fait un petit truc dans leur tête, et du coup, ça les invite à vouloir cliquer.
Donc je veux rentrer plus en détail sur les différentes étapes qui permettent à une vidéo d'être faite. Avant ça, je voulais juste qu'on reparle de l'équipe, de combien de personnes se trouvent dedans et quels sont leurs rôles. Donc combien de rédacteurs sont dans l'équipe actuellement?
Des rédacs, il y en a 4.
Ok. T'es sur 4 rédacteurs et t'es sur combien de monteurs?
On a 3 monteurs plus une stagiaire monteur.
Et après, tu vas avoir d'autres personnes. Moi, j'avais noté, tu me diras si c'est toujours correct, une personne qui est un commercial. Donc, je suppose que ça, c'est placement de produits.
Grosso modo, tout ça. Du coup, toutes les parties comme... voilà, il peut y avoir... Mais c'est ça.
Ouais. T'avais une illustratrice qui travaille sur les vidéos, j'imagine, sur le support.
Oui, c'est ça.
Le support du monteur pour les illustrations, ouais. Et t'avais une assistante... qui du coup, je suppose,
gère aussi.
Fait toutes les tâches relatives.
Bah, c'est pareil, c'est que du coup, le commercial, il va gérer tous les aspects un peu plus, du coup, on va dire financiers, et donc du coup, l'assistante va faire toute la partie plus administrative ou d'autres choses, donc ça dépend, donc ils sont assez multitâches les deux, et voilà, et du coup, là, on est en train d'avoir une nouvelle, ou un nouveau illustrateur aussi pour nous seconder, comme je suis sur d'autres projets aussi.
D'autres projets dont on parle après, donc en fait, t'es sur 4 rédacteurs, 3 monteurs pour produire essentiellement 2 vidéos par semaine.
On est à 3 vidéos par semaine maintenant.
3 vidéos par semaine, d'accord. Donc c'est pour donner un peu une idée de la pipeline et combien ça prend. Donc on imagine qu'un monteur fait une vidéo par semaine et un rédacteur a un chouïa moins que ça.
Non, pas tant. Enfin non, c'est à peu près pareil, tu vois, en termes d'équivalence. Et du coup, il y a du variable en fait, dans le sens où du coup, un monteur va mettre, ça dépend en fait les vidéos, mais ils peuvent mettre une semaine pour la monter, parfois un peu plus, ça dépend, mais sinon, ils peuvent mettre la plupart du temps moins, quoi. Ils vont mettre 2, 3 ou 4 jours sur les 5 jours du coup ouvrables d'une semaine, quoi. Et c'est pareil pour un rédacteur, mais voilà, à peu près.
Et du coup, s'ils prennent 3 jours pour faire le montage, comment est-ce que tu occupes le reste de leur temps? Comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là, sur tes monteurs en particulier?
En fait, il y a aussi du coup le fait qu'on teste souvent des nouveaux formats, et donc ça aussi, ça répond aussi à ta ancienne question, c'est quand on fait des nouveaux formats, là, à ce moment-là, on se prend la tête pour avoir les bons titres. Et donc, du coup, on teste des trucs, etc. Mais une fois que le titre a été éprouvé et qu'on a eu les vues, en fait, c'est simple, il faut reproduire le succès, et donc, du coup, t'essayes de reprendre la même structure. Et donc, du coup, les nouveaux formats, ça demande souvent beaucoup plus de temps, ça demande plus de recherche, que ce soit pour les rédacteurs, monteurs, illustrateurs. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi d'autres trucs, comme on est aussi sur, on fait TikTok, Instagram, Facebook, du coup tout la pipeline derrière nous, donc du coup il y a aussi du contenu qu'on produit là-dessus.
Et là du coup tu déclines tes vidéos de la chaîne sur des TikTok et sur de l'Instagram, ou est-ce que c'est du contenu original?
C'est jamais vraiment original. Alors Facebook, c'est simple, c'est que du coup c'est la même chose, c'est comme là c'est en carré et puis c'est sous-titré pour résumer, un peu résumé.
Okay.
Et du coup TikTok, c'est un contenu original, mais on reprend les sujets qu'on a déjà fait, on les réécrit pour que ça tienne en 42 secondes, quoi.
Ok. Donc ça c'est aussi du temps supplémentaire en termes de montage qui doit refaire tous les formats à chaque fois, j'imagine. Tu parlais à l'instant des idées, et je pense que donc du coup moi actuellement pour te resituer là où j'en suis, te donner le contexte de moi où j'en suis, traditionnellement sur Marketing Mania, moi j'écrivais tout. Donc j'écrivais tous les vidéos, je les tournais, etc. J'ai toujours eu un monteur, enfin ça fait très longtemps que j'ai un monteur. Pas tout, j'ai monté moi probablement moins de 10 vidéos sur la chaîne. Vraiment au début, et quand tu regardes, enfin c'était monté avec un logiciel qui s'appelle Camtasia, enfin ça tu vois assez rapidement, mais il y a des vidéos que j'ai faites qui ont bien marché en montage, mais tu vois que ça y était pas encore. Donc j'ai toujours eu mon temps, par contre j'écrivais tout sur non seulement la chaîne, mais en plus tout ce que nous on fait à côté, tous les emails qu'on fait, les pages de vente, les formations, etc. C'était beaucoup, et c'est seulement depuis relativement récemment que j'ai commencé à travailler avec des gens pour m'aider à écrire. Et on a des bons résultats en termes de qualité de ce qu'on produit. Par contre, je pense qu'on n'est pas encore clair en termes de process et en termes de comment est-ce qu'on s'organise. Et peut-être que il me faudrait aussi plus de gens, parce que j'ai qu'une seule personne. Je vois que toi, tu as 4 personnes pour écrire. Peut-être que je mets trop d'attentes sur une seule personne en termes de production. Ça, c'est aussi un truc que je regarde en termes de qui je veux recruter ensuite.
Mais concrètement, du coup, ça signifie, Stan, que du coup, pour pas, t'as un rédacteur là ou un auteur, du coup, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il produit en fait?
Le problème que moi j'ai toujours eu, comme je te dis, c'est que je pense que j'ai eu un peu de enfin, j'ai un peu ce syndrome où je suis parti de rien sur YouTube à une époque où, en gros, il y avait personne qui faisait des vidéos de marketing qui faisait plus de 10 000 abonnés, quoi. Donc 10 000 abonnés, c'était cool, tu vois, j'avais une vision assez petite des choses. Et derrière, moi, mon parcours avant, c'était de faire du copywriting, d'écrire des pages de vente, des emails de vente, etc. Moi, tu vois, c'était mon truc, je sais écrire, etc. Donc après, quand j'ai commencé YouTube et que sur YouTube, ça a marché pour moi, je me suis dit, c'est parce que j'écris super bien et que je suis super fort et que personne d'autre peut faire ce que je fais, etc. Tu vois, donc je me suis mis un peu dans ce truc, ce qui fait qu'en fait, je ne voulais pas déléguer ça, ou en tout cas, je me dis, ça va pas marcher. Donc j'avais déjà testé de recruter des gens en freelance, ou leur dire, bah tiens, on va faire une vidéo ensemble. Et c'était des bons freelances, c'était pas des freelances que j'ai trouvé sur un site random. Tu vois, c'était des gens que je connaissais, qui avaient déjà fait des bonnes vidéos. Je me dis, tiens, je vais te filer une mission, je vais bien te payer, tu vas faire une vidéo, etc. Donc le gars me faisait la vidéo, m'envoyait le script, je lui dis, tiens, c'est pas mal ce que t'as fait. Laisse-moi réfléchir un peu. Et du coup, je vais aller réécrire l'ensemble de son script de A à Z.
Oh là là, ah ouais.
Et à publier. Par exemple, tu vois, ma vidéo sur Fortnite que j'avais fait, c'était ça. La personne m'avait fait les recherches. Donc, du coup, les recherches étaient bien. Il y avait des idées qui étaient bien. Mais moi, j'allais réécrire l'ensemble du truc. Donc, en fait, ça marchait pas. Et comme c'était une personne qui n'était pas avec moi full time, ça faisait cet effet pervers où, en fait, j'ai pas forcément envie d'investir dans la former. Donc, comme c'est plus rapide pour moi de réécrire le truc plutôt que de former la personne, et que c'est pas un truc de long terme. Donc, courant septembre dernier, je me suis dit, bon, je peux pas aller, moi, dans un rendez-vous d'entrepreneur sans que tout le monde. Moi, je suis beaucoup plus dans un milieu d'entrepreneur que de youtubeur. Ce qui veut dire que moi, les gens vont toujours me dire, mais il faut déléguer les trucs, il faut recruter. Si ce que tu fais, c'est YouTube et que YouTube t'apporte ton trafic, il faut faire plus de YouTube, etc.
Clairement.
Enfin, ce qui est la même chose que moi, je dirais à n'importe quelle personne. Tu vois, si j'avais demain une personne qui faisait du YouTube et que YouTube, ça commence à marcher, je lui dirais, arrête tout ce que tu fais, tes projets annexes qui sont pas aussi importants, et concentre-toi sur scaler le canal qui fonctionne. Donc moi, on me donnait toujours le même conseil, effectivement, c'était ça, mais le bottleneck, c'était de te dire, ben, je peux pas faire plus de vidéos que je fais parce qu'à un moment donné, elles prennent trop de temps, tu vois, c'est pas possible pour moi de faire ces vidéos en 3 heures de travail, donc il fallait forcément recruter. Et donc je me dis, bon, bah, j'avais déjà recruté plein de gens dans le reste de l'équipe sur la gestion des formations, le coaching, le support client, on avait déjà plein de monde, mais personne qui avait vraiment ce rôle créatif, tu vois, c'était un peu un blocage que j'avais. Donc j'ai recruté quelqu'un pour m'aider à travailler. Et pour briser un peu ce blocage, je lui ai dit, on va faire des vidéos d'analyse peut-être un peu plus simples, et on va les mettre sur la seconde chaîne. Donc j'ai fait une seconde chaîne qui s'appelle Marketing Mania Daily, où on a commencé à travailler sur des vidéos, ce qui nous a permis de nous roder sur des vidéos qui sont un peu plus courtes. Donc sur la chaîne principale, on avait des vidéos qui commençaient à aller sur les 25-30 minutes. Il y avait un peu une inflation des vidéos et de l'ambition que j'y mettais, tu vois, et de l'ambition des sujets. Et d'un coup, il y a des vidéos, moi, que j'ai fait en 2017 et qui ont cartonné, qui cartonnent encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne les ferai pas parce que je me dis, mais non, mais l'idée, elle n'est pas assez grande, l'ambition de la vidéo, elle est trop petite. Tu vois. Par exemple, même des vidéos que j'ai fait, tu vois, sur le loup de Wall Street, qui ont fait plus d'1 million de vues, ce qui est énorme pour ma chaîne. Aujourd'hui, je me dis, mais non, je ne peux pas juste faire une vidéo sur le loup de Wall Street ou sur vendez-moi un stylo, il faut que j'ai un truc plus grand. Donc, du coup, je me suis un peu piégé dans ce truc où, comme l'ambition sur la chaîne montait, comment est-ce qu'une personne qui rentre aujourd'hui peut rattraper ce tu vois, une compétence que moi j'ai mis 5 ans à construire, tu vois, c'était un peu injuste de demander ça à quelqu'un. Du coup, sur la deuxième chaîne, j'avais l'opportunité d'avoir quelqu'un qui pouvait travailler sur des scripts, qui était du coup sur une seconde chaîne. Je me dis, bah, s'ils sont un peu différents du reste, ou s'ils sont pas aussi bien tout de suite, etc., c'est pas grave, c'est du bonus et les gens seront pas en mode, ah, bah, Marketing Mania, c'est devenu nul. Donc, c'est comme ça que je me suis un peu piégé moi-même à le faire. Donc, on a commencé à faire des scripts, on a fait des vidéos. Il y a plein de vidéos qui ont commencé à bien marcher et la chaîne a commencé à avoir une bonne traction. Et du coup, plus récemment, il s'est mis aussi à produire des vidéos pour la chaîne principale. Donc, au départ, principalement en faisant les recherches, etc. Et maintenant, en commençant à écrire. Donc, maintenant, il y a certaines vidéos qui sont sur ma chaîne principale qui ont été en grande partie écrites. Après, j'ai encore beaucoup plus d'implications que toi, je pense, au terme de la réécriture, etc. Mais il y a quand même des améliorations de mon côté. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il est passé sur des vidéos plus ambitieuses sur la chaîne principale, on a effectivement. Au départ, j'avais la vision peut-être un peu naïve qu'on pouvait faire. Un script toutes les semaines sur la chaîne secondaire avec lui, plus une vidéo de réaction, tu vois, en gros 2 vidéos par semaine, mais une vidéo qui est soit écrite et une autre vidéo de réaction. Mais on n'y est pas encore. Et je pense que, et tu me diras comment ça fonctionne, mais je pense qu'un élément, c'est qu'on n'a pas suffisamment de projets et d'idées dans la pipeline et on va vraiment être séquentiel. C'est-à-dire, on va dire, OK, on fait une vidéo, on fait le concept, on valide, on fait un script et c'est un par un. Ce qui fait qu'on n'a pas un énorme pool d'idées dans lequel on peut faire. Et on est un peu séquentiel. Et par ailleurs, évidemment, il n'y a qu'une seule personne, donc forcément, c'est une limitation. Mais là, pour le coup, comme on a commencé à avoir des bons résultats, maintenant je vais pouvoir prendre plus de gens. Tu vois, j'ai réussi à débugger le truc, ce qui m'a pris quand même assez longtemps, ce qui m'a pris plus de 6 mois pour vraiment débugger le truc avec cette personne et d'avoir une bonne qualité. Je pense qu'on n'est pas encore 100% en termes de process, tu vois.
Après, 6 mois, ça me fait pas peur. Enfin, ça m'étonne pas parce que du coup, avec mes rédacs, j'ai pu passer parfois 6 mois. Ça dépend. Parfois, ils pouvaient être ultra réactifs et bons dès le départ quasiment, ou parfois, ça pouvait prendre plus. Ça dépend en fait du niveau d'exigence ou de qualité que tu peux exiger dedans. Enfin, comment dire? Toi, par exemple, la dernière en date, du coup, elle bosse plutôt sur des thématiques scientifiques ou d'espace. Et comme je suis un peu passionné par le sujet, j'ai quand même des bonnes connaissances aussi à titre perso. Donc, c'est vrai que s'il y a des lacunes ou alors des petits manquements dedans et que du coup je les vois, je vais être beaucoup plus titilleux et tatillon en fait qu'avec d'autres scripts où c'est un peu plus général. Mais voilà, franchement après ça dépend quoi.
Et dans ce cas-là, si tu fais. Je veux qu'on reparle des retours sur le script, mais grosso modo, à un certain moment, combien tu as d'idées qui sont dans la pipeline, tu vois, combien de projets sont quelque part en cours de fabrication? Est-ce que c'est une personne fait un projet et le fait de A à Z, ou est-ce qu'ils ont plusieurs projets
Un projet,
en
c'est un
cours? Ouais,
script
un
pour toi,
script,
du
ouais.
coup. Ok, parce que moi, les projets, c'est pas ça. Mais d'accord, ok. Un script, combien ils en ont? Et bon, comme je t'avais un peu répondu tout à l'heure, en fait, avant, et c'est ça qui était un peu embêtant, c'est pour ça qu'on a amélioré un peu ce process, c'est que ils venaient parfois me quémander, du coup, pour valider une idée. Et du coup, j'ai envie de dire, mais écoute, je suis pas ta mère, enfin, débrouille-toi, enfin, tu me balances 10 idées d'un coup et j'en valide peut-être la moitié ou on check ensemble et puis comme ça, t'es bon pendant plusieurs semaines ou ça dépend. Mais voilà, du coup, là, c'est pour ça qu'il y en a à peu près une dizaine de scripts déjà définis et donc eux, ils s'organisent comme ils veulent par rapport à ceux dont on a besoin, tu vois. Faut pas faire trop de ce même format, pas trop de celui-là, donc on est réparti. Et après, ils font, enfin, au niveau de comment ils procèdent, du coup, ils font leur recherche, ça va durer quelques temps, ça dépend en fait du sujet, tu vois. Ça peut durer quelques heures comme quelques jours. Après, du coup, ils écrivent à peu près le même temps. Et puis après, moi, je check tout ça. Et puis voilà. Si c'est des formats déjà établis, en fait, la vérification, ça peut aller très vite. La lecture des scripts, honnêtement, du coup, j'ai fait ça hier. Moi, tu vois, vers 23 h, un peu déchiré. Du coup, je fais bon, ouais, parce que demain, faut tourner. Donc, j'ouvre le script, je le lis un peu en diagonale. Donc, je m'attarde pas trop. Sauf si, du coup, le rédacteur est nouveau ou que le sujet est nouveau, ou là, je vais le lire plus en détail. Mais quand le sujet est établi, que le rédac, du coup, je sais qu'il bosse bien et qu'il n'y a pas grand chose à modifier, je le check rapidement. Parfois, je vais modifier rapidement moi-même la chose, mais c'est rare. Et quand je dis je modifie rapidement, vraiment, ça me prend 2 3 minutes, tu vois, à modifier tout. Ça, c'est vraiment très rapide. Et sinon, je lui fais des remarques. Je préfère faire des remarques pour que du coup, il voit et avec le temps, il prenne en compte mes remarques pour les intégrer de base. J'essaye au minimum de modifier moi-même les trucs, sauf si vraiment on est urgent et tout. Et puis voilà, ça dure le temps de lecture du script, grosso modo, donc c'est pas très long. Et du coup, le lendemain, j'installe le prompteur, tout ça, on tourne, et puis. Hein.
Et donc tu tournes, donc du coup tu tournes aujourd'hui. Combien de vidéos tu vas tourner sur une session?
Du coup, grosso modo, une session, ça va être 6 vidéos. Sachant que tu vois, en fait, comme on sort 3 vidéos par semaine, et que du coup, moi, je tourne toutes les 2 semaines, bah du coup, 6 vidéos d'un coup. Et si je suis d'attaque, alors ça dépend, en fait, du coup, si on commence pas trop tard, je peux en tourner 7, 8. J'avoue que c'est pas facile parce que ça demande quand même une bonne énergie. Je te dis, à la fin, je suis un peu déchiré, mais c'est pas grave. Après, je me dis, ok, j'ai tout compacté là-dedans, ensuite, entre guillemets, j'en suis débarrassé, quoi. C'est l'industrie, quoi.
Et d'un autre côté, c'est le tournage, c'est un peu comme ces tâches qui ont du sens de batching. C'est que sinon, c'est difficile de rentrer dedans et d'en sortir, je trouve. Juste tourner une vidéo,
Ouais, mais
ça
exact.
te flingue quand même pendant un bon moment parce que tu peux pas non plus genre être en train d'écrire, tourner la vidéo tout de suite et après être en train de réécrire. Essentiellement,
Ah
t'es
ouais.
dans une dynamique. Donc, en un sens, il vaut mieux en tourner plusieurs.
En fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Sam. C'est qu'avant, en fait, j'avais la méthode et je me demande comment je faisais parce que il y avait une vidéo décrite. Après, du coup, je fais putain, le monteur va plus avoir de boulot. Du coup, ça me stressait. Du coup, le matin, je me réveille avant que tout le monde arrive. Genre, mais le matin, c'est mort. Je peux pas tourner. En plus, con que je suis, tu vois, je me réveillais à 8 heures, j'ai grosses cernes comme ça, j'avais la voix pâteuse et tout, je me mets à tourner et après je sors la vidéo. Une fois sur deux, en plus, il y avait des problèmes de micro, du coup, en fait, je devais retourner, ça me rendait fou. Et du coup, les gens, ils disaient, oh Chris, t'as l'air malade ou pas, t'es tout crispé, je viens de me réveiller. Donc voilà, et c'est pour ça que je tournais genre le matin avant qu'ils arrivent et ça me faisait chier. Et je me disais, mais putain, genre plusieurs fois par semaine, je devais un peu me stresser pour tourner la vidéo le matin, quoi, avant qu'ils arrivent. Oh, affreux, affreux.
Moi, j'ai un peu ce problème, partiellement parce que comme on produit relativement peu de scripts, quand je produisais des scripts moi-même, J'avais terminé les scripts, je l'enregistrais. De toute manière, ça va être 3 semaines avant que j'écrive quelque chose d'autre. Je fais pas que des vidéos, tu vois, donc ça prenait trop de temps. Et là, aujourd'hui, on a un peu ce truc, c'est-à-dire que quand le script il est fait, il va falloir le tourner un par un. C'est effectivement pas idéal, il vaut mieux en avoir plusieurs. Mais pour en tourner 6 ou 7 d'affilée, ça veut dire que tu es vraiment rodé en termes d'enregistrement
Ouais,
et que
clairement.
tu peux boucler une vidéo en quoi, 20-30 minutes?
Alors, pour prendre large, en fait, du coup, les petites vidéos, c'est 30 minutes et les grosses vidéos, c'est 1 heure. En fait, de base, en fait, ça met à peu près 40-45 minutes à tourner une grosse vidéo. Mais en vrai, du coup, je prends en compte tout, en fait. Tu vois, entre les transitions entre deux vidéos, le fait de recadrer parfois, le fait de passer à un autre plan et tout, en gros, ça met une petite heure, sachant que j'utilise un prompteur.
Et donc, tu utilises un prompteur et je me demande. Je pense que je suis particulièrement un galérien en termes d'enregistrement parce que dans mes vidéos, j'ai un truc où je dois parler vraiment à 2000 à l'heure. Ce qui fait que
Ah
je bute beaucoup. Je bute beaucoup. Parce que les phrases doivent être méga rapides. Tu vois, vraiment, sur mes vidéos, si tu regardes, j'ai des commentaires dessus. Mais après, enfin, quand ta vidéo elle dure déjà 25 minutes, je peux pas parler 30% plus long, c'est pas possible. Mais quand tu tournes, juste par curiosité personnelle, est-ce que ça t'arrive beaucoup de reprendre les phrases ou finalement t'es assez fluide dans ton tournage? Parce que moi, je pense que c'est quand même un truc qui me fait prendre un peu plus de temps.
je sais pas, c'est j'ai Je mets à peu près 3 fois plus de. Le tournage dure 3 fois plus longtemps que la vidéo finale.
Ok.
Et je me reprends pas tant que ça, en vrai, tu vois. Non, franchement, non, c'est assez fluide. Sauf parfois où je bafouille et tout, et ça finira en bêtisier quand on sort tous les ans. Mais
Ouais.
non, enfin, non, honnêtement, si, quand même, j'ai quand même des problèmes d'élocution. Surtout qu'en fait, c'est vrai que c'est con, mais comme tu t'en as rendu compte, c'est quand on doit gérer plein de trucs, le cadrage, la caméra, le ton, du coup, l'expression, l'énergie dans la voix. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les mots, ils sortent et puis ça veut rien dire. Donc, en plus, comme je veux, comme toi, au fait, avoir un bon débit pour pas endormir les gens, du coup, c'est vrai que parfois on bafouille. Mais moi, quand je tourne, maintenant, en fait, j'ai toujours le rédacteur qui l'a écrit, ou au pire, une autre personne qui va checker que je dis pas de conneries parce que je m'en rends pas compte. Et après, ça fait que le monteur, il galère. Donc, toujours le
Ouais.
rédacteur avec moi. C'est pour ça qu'aussi, tout est sur une journée. Là, je sais qu'il y a les rédacteurs qui ont écrit les scripts qui sont là et qui m'attendent, quoi.
Ouais, ça m'est arrivé quelquefois de dire le mauvais mot et après au montage je me disais ah merde, j'ai dit le mauvais mot et du coup ça a aucun
Ouais, mais
sens.
moi je dis c'est pas grave, bah tu coupes ou tu refais. Oh, mais Chris, arrête s'il te plaît, c'est
Ouais, tu
casse-couille.
coupes.
Ouais, bon, ok, on va retourner et tout. Donc c'est
Ouais.
chiant, je dois retourner des voix off et tout, ça m'emmerde. Donc
Ouais.
c'est mieux comme ça normalement.
Ouais. Mais du coup, tu gères quand même toi-même la caméra, le cadrage, parce que finalement, t'as personne qui s'en occupe.
Bah ça c'est pour ça aussi, tu le disais au début, c'est que pourquoi on fait aussi tout en même temps, c'est que ça me pète les pieds, tu vois, du coup d'installer le setup. En gros, je mets à peu près une demi-heure pour tout installer, sans forcément se stresser, mais on met une demi-heure à installer les lights, tout vérifier, tout revérifier parce que les problèmes de micro et tout, bref, faut faire en sorte que tout marche.
Ouais.
Et donc ça, en fait, grosso modo, ça prend presque pas plus d'une demi-heure par journée, parce que du coup on l'a fait une fois, même si on doit changer un peu le décor, donc ça c'est bien. Parce que si je tournais une vidéo par jour, en fait, 30 minutes seraient perdues à ça, quoi.
Ouais, carrément. Moi j'avais ce problème-là. Je l'ai plus parce que maintenant tout est fixé de mon bureau, genre la lumière, le truc derrière, ça, donc ça me prend 2 minutes. Mais avant, c'est
Ah, ça,
vrai
on est en
que
train de le faire.
ça te prend un temps démentiel d'insérer. Surtout si tu dois en fait t'auto-cadrer. Il n'y a rien de pire, tu mets le truc, tu vérifies, tu te rassois, tu fais ah putain, merde, mon crâne il est à moitié coupé, il faut que je revienne bouger la caméra et tout. C'est fait, il n'y a rien de pire.
Ouais, mais après ça, du coup, après, si t'as un prompteur, de toute façon, t'as un retour caméra et tu. Ah non, oui, c'est vrai, pardon, toi, tu vois pas. Mais en fait, nous, on a branché un écran qui est là, hein, parce que là, c'est la pièce où je tourne de base. C'est pour
Ouais.
ça on est tranquille, je suis jamais embêté. C'est que du coup, j'ai un écran que je branche, je mets sur une petite table, donc je vois toujours mon retour. Comme ça, s'il y a un problème de micro, de je sais pas quoi, ou alors d'angle mort ou de conneries comme ça, bah du coup, je les vois.
Ouais. Moi j'ai ça maintenant, j'ai un peu amélioré mon setup. Mais moi au départ quand j'ai commencé, je tournais vraiment en mode je tournais dans des coworking, si tu veux. J'arrivais dans une salle de réunion
Ouais.
avec tout mon matos que j'importais, c'était vraiment le bordel, quoi. C'était vraiment un temps monstrueux en termes de
Pareil, ouais.
setup. Parlons un peu du montage du coup. J'imagine que c'est à peu près pareil le montage. La personne fait le montage, te met le truc, t'as deux trois retours et c'est fini. Comment ça se passe?
C'est ça. Bah du coup, c'est le même process. C'est du coup dans le sens où les personnes, faut qu'elles soient le max autonomes et qu'elles sachent faire le max possible. Donc, si c'est des nouveaux monteurs, il y a un autre monteur plus expérimenté qui va checker et après, moi, je ferai la validation finale. Mais en gros, il met, on va dire, quelques jours pour tourner sa vidéo, enfin, pour la monter, pardon. Ensuite, à ce moment-là, moi, il me dit, ouais, c'est prêt, Chris. Donc, soit à ce moment-là, je lui dis, tu me l'envoies sur notre serveur, le NAS, enfin, le serveur partagé. Et du coup, il me donne le lien et je la check. Et sur un document, un Google Sheet, je lui fais une sorte de bullet point des points, du coup, qu'il faudrait rectifier. Donc ça me prend pas très longtemps, c'est pareil, tu vois, à peu près la durée, ou alors au pire le double de la durée de la vidéo, tu vois, donc une demi-heure, on va dire. Et voilà, ou sinon, si je suis un peu plus d'attaque, bah du coup, il vient avec moi. Et donc, il y a le rédacteur qui avait écrit la vidéo aussi, qui est avec nous. Et du coup, je lui fais les changements en direct. Et nous, on est sur Vegas. Donc, il fait des marqueurs à chaque fois qu'il y a des petits tractifs. Et bah après, il fait les corrections de son côté. Et voilà, après, il corrige et puis il met la vidéo en ligne lui-même, machin. Tout est planifié, quoi.
C'est rassurant parce que tu vois, le montage, pour le coup, moi, c'est un process que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Ça fait des années que je délègue le montage. Et finalement, on est un peu sur le même process. Et là, pour le coup, c'est extrêmement efficace. Voilà, moi, mon but avec les gens, c'est de dire, je fais toujours un retour. Donc il y a une V1 et il y a une V2, mais il ne faut pas qu'il y ait de V3. Ça veut dire qu'il faut que sur la première V1 que tu aies, elle soit suffisamment avancée pour qu'il n'y ait pas genre 4 allers-retours qui soient faits et que tous les retours soient pris en compte sur la V2. Généralement, ça fonctionne bien.
Ça marche, les V1 et les V2, nous c'est pareil, tu vois, mais si, en fait, s'il y a besoin de faire plus de retours, c'est que c'est un nouveau format ou que du coup, c'est des tests en fait qu'on fait. Donc là, il y a plus de retours, mais sinon, quand c'est éprouvé, un seul retour, c'est bon, quoi.
Ouais, pareil, quand on a commencé à faire les vidéos de réaction, il y a eu pas mal de retours aussi. Tu peux pas cuter un peu plus, hein, parce que j'ai l'impression de pirater la vidéo de la personne d'avoir fait toutes ces vidéos. Tu peux pas la cuter un peu plus, parce que je me sens mal, là. Effectivement. Donc, au niveau du montage, juste en termes d'outils, je suis pas vraiment un fanatique d'outils, mais à l'origine, pour moi, on me uploadait la vidéo sur YouTube en navigation privée et je faisais des retours sur un document comme tu fais, en notant les timecodes. Maintenant, on utilise Vimeo. Et sur Vimeo, tu as un mode de retour. En fait, tu peux directement cliquer et laisser des commentaires dans la vidéo. Et pour moi, ça a changé le game. Tu vois, tu regardes la vidéo, que tu cliques, tu mets un petit commentaire à cet endroit avec toi le point spécifique. Et en fait, au lieu de retaper le truc et de retaper le timecode, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que tu fais beaucoup de retours, mais c'est un petit outil en tout cas pour les gens qui nous regardent en termes de comment travailler avec un monteur, qui change tout. Surtout si t'as pas trop l'habitude de travailler avec un monteur, etc. Tu cliques juste, tu donnes les retours sur un Vimeo. C'est top ça.
Et ça te permet d'aller plus vite qu'avant ?
Ouais, ça me permet d'aller plus vite. En fait, avant, si tu veux, j'avais un process, donc. Je notais le timecode, je notais le retour un par un, tu vois. Donc c'était un autre document. Là, je suis directement dans Vimeo et en gros, ta vidéo est à droite. T'as une petite barre latérale avec les commentaires. Tu cliques. Donc le monteur a directement le timecode. Il peut cliquer sur un commentaire, ouvrir directement le timecode. Il peut te poser des questions directement dans les commentaires, te répondre en gros s'il a une question. C'est rare que ça arrive, mais si jamais il y a un truc qui n'était pas clair, tu peux mettre un lien directement vers un retour dans la vidéo. Et aussi, quand il a fait un retour, il peut cliquer dessus. Donc, comme nous, par contre, il y a des fois où on a quand même beaucoup de retours. Donc, tu vois, sur une vidéo, on peut avoir 30 retours, mais c'est des petits trucs, tu vois. C'est genre ici, la police de caractère, elle n'est pas bonne. Ici, le visuel, prends plutôt ça. Là, tu pouvais mettre ça. Ici, change la musique, etc. Tu vois, tu as 30 petits retours. Donc, finalement, pour lui, de pouvoir traquer ces 30 petits retours, il peut les cliquer directement. Enfin, c'est juste un petit outil. Je suppose que tu n'en as peut-être pas besoin. Tu vois, c'est déjà un process établi. Mais pour les gens qui nous suivent et qui se posent cette question, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir faire les retours, tu vois, de manière efficace et structurée.
Non, mais carrément, non. Par contre, non, c'est intéressant. Peut-être je l'utiliserai quand je suis en distanciel avec eux. Ça peut être cool. Hein. Si ça me permet d'aller plus vite et que c'est OK. C'est juste après, quand on est en dans la même pièce, en fait, comme on est directement sur le logiciel et qu'ils mettent les marqueurs, là, par contre, ça servira à rien.
Ouais, bah, ça sert à rien. Ça fait un peu le même truc où t'es directement dedans. Une question qui m'intéresse de voir avec toi, donc tu as évoqué rapidement le fait qu'un monteur plus expérimenté va faire un retour à la personne moins expérimentée. Moi, c'est un truc qui m'intéresse bien parce que parfois, je me dis, beaucoup de gens dans mon équipe ont besoin de mes retours, mais en fait, je ne sais pas s'ils ont besoin de mes retours ou ils ont besoin d'un retour de quelqu'un. Et que quand ils sont tout seuls dans leur pôle et ils n'ont pas de collègues, moi, en fait, je suis leur collègue principal et leur interlocuteur principal pour parler de leur projet. Et à partir du moment où j'ai plusieurs personnes qui vont être dans un pôle, ils ont beaucoup besoin de moi, beaucoup moins besoin de moi, puisqu'en fait, ils peuvent se parler entre eux. Et ne va remonter jusqu'à moi que les éléments qui sont... Voilà, ils n'ont pas besoin d'une personne, ils ont besoin de moi en particulier. Dans quelle mesure est-ce que les personnes qui écrivent tes scripts, par exemple, vont se faire des retours les uns les autres ou vont collaborer? Et dans quelle mesure est-ce que c'est directement toi qui prends les choses?
En fait, au niveau des montages et des scripts, quand la personne, elle sait faire, elle prend plus trop les retours des autres, sauf si exceptionnel, en fait. Mais de base, en fait, après, ils me font juste un retour à moi, en fait, dans le sens où... le monteur, c'est quand il est en apprentissage, donc ça dure les premiers mois généralement, et après quand il est rodé, on évite ce genre d'intermédiaire, quoi.
Ok, ouais. Donc c'est plus au niveau en fait de la formation. Quand on bande quelqu'un, tu veux pas pour chaque monteur devoir refaire l'ensemble du process, la charte graphique. Finalement, il y a d'autres personnes qui le connaissent déjà et qui vont former cette personne. Et c'est là où le fait d'avoir une équipe aide beaucoup.
Ouais, c'est ça. Exact. Ouais.
Moi, ça j'ai aussi remarqué quand j'avais commencé à recruter des gens. La première personne que j'ai recrutée, je pense que pendant genre un mois, Je passais deux fois plus de temps à faire les trucs qu'à l'époque où je le faisais moi-même parce que je devais lui expliquer chaque truc. Mais après, j'ai jamais eu à refaire ça. Je l'ai fait une fois avec la personne. On a tout documenté. Notamment, c'était à l'époque, nous, on a beaucoup, tu vois, de support client, d'emails, les gens nous posent des questions. Donc, à chaque question, ils me demandent, bah, tiens, comment je réponds à ça? C'est pas, je me dis, putain, chaque question, ils me demandent j'aurais mieux fait de répondre moi-même. Mais évidemment, une fois
Ouais.
qu'il a eu la question, il a eu la réponse, il l'a noté dans un document. Ce document, moi, je l'ai pas vu depuis 4 ans. Mais on a quelque part, tu vois, un ensemble des archives, des questions, etc. Et là, on commence à avoir ça sur l'ensemble des pôles et le monteur. Et c'est pour ça, tu vois, quand je te dis que ça m'a pris 6 mois de travail, enfin, ça m'a pris 6 mois d'avoir des bonnes vidéos. Ça m'a pris 6 mois de continuer, tu vois, à optimiser ce process. Mais c'est vrai que une fois que ce truc a été fait une fois, j'ai une bonne confiance que cette personne va pouvoir le transmettre à la suivante. Et ça prendra toujours du temps à la personne suivante de l'apprendre, mais pas forcément à moi personnellement de devoir transmettre cet élément-là, quoi.
Bah, carrément, si on embauche aussi, c'est pour pouvoir déléguer aussi, se permettre d'avoir du temps en plus pour faire d'autres trucs. Donc ça, c'est un plus, honnêtement. Tu vois, quand je discute avec des gens qui ont du mal ou qui ont peur de déléguer, c'est un truc qu'ils remettent sur la table et qui dans le sens où, comme tu dis, ouais, mais du coup, je suis obligé de passer beaucoup de temps avec lui au début. Oui, mais c'est qu'au début. Enfin, tout le temps que tu vas passer, du coup, après, tu le passeras plus ni pour lui, ni pour toi, en fait. Mais bon.
C'est que pour le début, et surtout que pour la première personne. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment frappé, c'est que la première fois que j'ai recruté un poste qu'on appelle en gros assistant opérationnel, c'est un peu la personne à tout faire qui gère tous les aspects techniques, du support client, etc. Donc vraiment qui a beaucoup d'éléments. Première fois que j'ai recruté cette personne, j'ai passé probablement 2 mois à le former quasiment un tiers ou 2 tiers de mon temps, enfin,
Waouh.
tu vois, presque 50% de mon temps, je pense,
Putain.
à le former, parce qu'il y avait, il manquait beaucoup de choses. Et moi, en fait, je m'apercevais que je carburais tout seul, je démontais des tâches, tu vois, toute la journée comme un bourrin. Et à partir du moment où il fallait que j'expliquais à la personne, ça lui prenait plus de temps, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai jamais eu à refaire. Et depuis, il y a eu 3 personnes différentes qui ont tenu ce pôle. Et à chaque fois, le niveau de qualité a augmenté puisqu'on avait de plus en plus de process. Là, c'est un vrai truc, tu vois. C'est un investissement seulement sur cette personne, mais également sur l'ensemble du truc. Et une fois que tu as délégué tout un espace, une fois que tu as délégué le montage une fois, en fait, tu n'auras plus jamais besoin d'expliquer à quelqu'un comment monter.
C'est vrai.
Parce que d'une part, nous, on a une procédure de montage vraiment élaborée. Et aujourd'hui, moi, je peux mettre des gens maintenant sur le montage et la première vidéo qu'ils vont faire vont être au niveau du top niveau de ce que peut faire Marketing Mania et de ce qu'on n'a jamais fait, quoi. Juste sur le montage et les retours de l'autre. Et donc ça, tu vois, pour moi, c'est un peu le montage, pour moi, c'est un peu l'endroit où je voudrais arriver au niveau de l'écriture, à un point où on a vraiment, tu vois, tes process, etc. C'est ça qui m'a inspiré aussi à me dire, ça doit être possible.
Carrément. Mais c'est pour ça, en fait, plus tu embauches et plus c'est facile, en fait. Parce que tous les process, même tu sais le profil que tu veux, tu sais comment le former, parce que tu as déjà des gens qui l'ont fait et qui vont le faire pour lui. Enfin, tu vois, tout est plus simple, plus tu embauches, en fait, des gens. Dans le même pôle, en tout cas.
En termes de gestion, je suis intéressé pour comprendre comment est-ce que tu fixes, notamment à tes rédacteurs, des objectifs et des deadlines. Qu'est-ce que tu leur dis comme étant le critère de succès? Comment est-ce que tu communiques avec eux à ce niveau-là?
Bah, grosso modo, ils essayent de se caler sur aussi le rythme des monteurs et du coup de nos 3 vidéos par semaine, plus d'autres trucs qu'on fait à droite à gauche. Donc, je suis pas. Après, je sais pas. Du coup, de ce côté-là, j'ai su déléguer, mais je suis pas parfait non plus partout. Donc, je sais pas en fait si ma façon de faire, du coup, par rapport au deadline, ça fonctionne. Je sais que du coup, j'ai pas trop de soucis parce qu'on a un léger surplus de rédac. Comme je t'ai dit, on a 4 rédacs pour 3 monteurs, même s'il y a des trucs qui se font à côté. Mais voilà, c'est le rythme, c'est 3 vidéos par semaine. Donc quand ils sont bons, normalement, ils peuvent écrire deux scripts par semaine, ou alors que les scripts sont pas trop compliqués. Ça dépend, il y a des scripts compliqués, donc parfois ça met une semaine ou plus et tout. Donc pas trop de problèmes. Ils écrivent et vraiment, je leur dis pas grand-chose en fait. Du coup, j'aime pas trop materner ou du coup gronder ou ce genre de choses. Donc, si je vois qu'ils écrivaient pas assez, en fait, pendant la période de formation ou le temps, comment ça s'appelle, tu vois, la période d'essai, tout ça, du coup, je le verrais. Du coup, à ce moment-là, peut-être on travaillerait plus, mais tu vois.
Mais est-ce que du coup, tu as un calendrier de publication qui s'étend dans le futur, ou par exemple, si je travaille une vidéo en tant que rédacteur, je sais qu'elle doit être publiée dans 2 semaines et que du coup, il faut qu'elle soit
Ouais.
écrite dans une semaine, c'est ça?
Bah, il y a un carnet, sauf erreur, je crois que c'est on sait sur 1 mois ou 2 mois à l'avance ce qu'on va publier à peu près.
Ok, ouais.
Mais c'est pas moi qui le gère, tu vois. Donc je sais honnêtement, je sais même pas qu'est-ce qu'on va publier, quoi. D'ailleurs, quand les vidéos sortent, je sais même pas qu'elles sont publiées. Elles sortent, quoi.
Ouais. Le dernier point que tu as jamais, ou peut-être que tu l'as délégué, mais tu le fais pas encore, c'est la présentation. C'est un sujet qui est venu récemment dans mon équipe. C'est pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois être sur les vidéos? Est-ce que notamment sur la chaîne Daily, est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres personnes? C'était un sujet intéressant parce que quand on en a parlé, je me suis dit, putain, j'y avais jamais pensé quoi. Tu parles d'un blind spot complet, j'avais jamais réfléchi vraiment à cette question sérieusement. Et c'est vrai que pour nous, ça résolverait des problèmes. Pas forcément parce que enregistrer ça prend beaucoup de temps, parce qu'enregistrer ça prend pas beaucoup de temps, mais parce que pour moi, à partir du moment où je présente un script, il faut qu'il soit à mon niveau d'exigence. Alors que parfois, il y a des scripts qu'on fait qui sont bien. Je me dis, ils sont bien, mais j'ai envie qu'ils soient comme ça. Et donc, du coup, il faut tu vois, les changer un petit peu. Donc, c'était un point que je me suis posé l'action. Dans quelle mesure est-ce que toi, tu penses que c'est intéressant pour toi de déléguer la présentation des vidéos en elle-même? Dans quelle mesure est-ce que ça sert à rien, puisque de toute manière, tu peux enregistrer toutes les vidéos de 2 semaines en une journée? Et voilà, comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là?
Autant on peut déléguer énormément de trucs, autant le tournage c'est délégable aussi, hein, honnêtement. Hein. Du coup, tu pourrais avoir une autre personne. Après, il faudrait que ce soit bien fait. Si tu as vite quelqu'un dès le départ et que tu le remplaces toi, ça nous serait un espèce de Yann Piette, du coup, bis, ou du coup, avec son ancienne chaîne, ou quelqu'un a essayé de le remplacer, ça n'a pas marché. Mais en admettant que ce soit bien fait, que ce soit fait en douceur, c'est possible. Et du coup, les gens pourraient peut-être s'attacher à l'autre personnalité s'ils la trouvent kiffante. C'est juste que. Je pense que quand on commence les vidéos YouTube et qu'on se met en avant et qu'on se tourne, c'est que du coup, on a aussi un petit ego plus ou moins bien placé qui fait que du coup, on apprécie ça. Et donc, je vais pas mentir en disant que ça... autant, j'avoue que la notoriété, je m'en fiche un petit peu, en tout cas maintenant, mais autant, en fait, pouvoir tourner et que du coup, les gens associent mon visage aussi, du coup, à la chaîne, je trouve que c'est un élément important. Et c'est pas tant que la chaîne, c'est aussi l'entreprise derrière, tu vois. J'aime l'idée, en fait, tu vois, que du coup, il puisse y avoir une personnalité forte ou quelque chose qui incarne, en fait, l'entreprise. Exemple, tu vois, genre Elon Musk, c'est con, mais on sait que c'est le gars derrière SpaceX ou alors Tesla, alors qu'il y a des dizaines de milliers d'employés. Du coup, voilà. Mais du coup, on se dit, c'est lui. Et du coup, je préfère cet état d'esprit plutôt qu'avoir une entreprise désincarnée où le PDG, on s'en bat un peu les steaks et où ça pourrait marcher tout aussi bien. Mais je suis plus en faveur d'avoir quelqu'un qui... le capitaine qu'on connaît quoi. Donc du coup en fait moi je suis content de pouvoir incarner ça du coup vis-à-vis de la chaîne et après de l'entreprise quoi.
Ok,
c'est aussi ça.
Ouais ça fait sens hein. Moi c'est pareil, tu vois, c'est un projet. En fait la question que je me pose c'est est-ce que dans quelle mesure est-ce que l'audience peut l'accepter? Et moi c'est un truc, c'est assez horrible à dire parce que moi-même en tant que spectateur je regarde des youtubeurs et même si je sais qu'il y a des personnes qui écrivent pour cette chaîne, ça me dérange pas. Et d'un coup, le youtubeur était plus là. Je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce que je regarde cette chaîne? Tu vois, c'est comme si c'était une autre chaîne YouTube qu'on m'avait abonné de force. Même si je pense qu'il y a des manières de le faire. Il y a des gens qui ont réussi à faire des trucs intéressants là-dessus. C'est pas une transition qui est super facile. Et comme finalement, c'est pas le truc qui prend le plus de temps.
Ouais.
Tu te dis, ben. Ça semble être un espèce de risque, tu vois, et t'as peur de le prendre un peu ouais, à ce niveau-là.
C'est un peu risqué, mais même si on imagine que du coup la transition se fasse bien, en vrai, c'est vrai que du coup les gens ils sont abonnés à une chaîne YouTube pour la personnalité. Et en vrai, ça prend pas de temps et ça t'apporte aussi des compétences transversales intéressantes. Donc le fait de gagner en aisance, même si au bout d'un moment t'es rodé et tout, c'est toujours des trucs que tu acquiers et qui sont cool. Donc c'est aussi une sorte de petit cheminement personnel de continuer à faire des vidéos, je trouve.
Ouais. Au niveau de la manière dont tu recrutes les gens, est-ce que tu as une méthodologie particulière pour sélectionner les gens? Comment est-ce que tu vas faire pour trouver les bonnes personnes dans ton équipe?
J'essaie à chaque fois, ça se procède, je l'ai amélioré constamment et je supporte pas garder des... Enfin, j'aime pas trop les façons de faire, en fait, basiques, de base. Donc, tu vois, pour te dire... En fait, j'ai testé plein de trucs. J'ai bouffé des milliers de CV ou des trucs comme ça, mais... Là, le dernier process sur lequel je suis assez fier, parce que je suis encore en train de recruter des nouvelles personnes, c'est que du coup, il n'y a pas de CV, pas de lettre de motivation. En fait, il y a un type form, un formulaire en ligne qui dure, allez, si t'es rapide, tu mets quelques minutes, mais tu vas être éjecté. Et si tu prends le temps de répondre aux questions ouvertes à la fin, en fait, du coup, tu mettras 10-20 minutes. Donc, c'est pas très long, mais en gros, en fait, toutes les questions fermées, en fait, tu vois, il y a une dizaine de questions fermées, 10-20, et à chaque fois, si tu réponds mal, t'es éliminé. Mais c'est pas des trucs méchants, enfin, il y a pas de piège. En tout cas, dans cette formulation, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à bosser sur Lyon, et du coup, travailler pas quand télétravail, en gros, oui, non. Et du coup, si tu réponds non, tu sais que tu vas pas aller plus loin. Est-ce que, du coup, vous aimez les horaires libres, vous pouvez manager? Ah non, j'aime pas trop, bah, au revoir, bah, du coup, voilà. Est-ce que, du coup, vous savez écrire français, ou est-ce que vous faites des fautes parfois? Oh, bah, je fais des fautes. Bah, éjecter, ça dépend en fait du poste. Tu vois, en fait, ça permet, si la personne est honnête, bah, du coup, qu'elle perde pas de temps et qu'on perde pas de temps. Une fois que c'est fait, ensuite, à ce moment-là, j'ai un gros formulaire, ensuite, et je vais trier pour te dire, dans les dernières candidatures, là, je recherchais un responsable de campagne parce que je vais lancer des campagnes en crowdfunding. Et donc, il y avait 8000 personnes qui avaient cliqué sur l'annonce, qui avaient répondu, ou en tout cas, qui ont ouvert l'annonce. Et donc, du coup, à partir de ça, bon, faut savoir qu'il y en a 90% qui sont éjectés aux questions fermées aisément. Donc, il reste 800 personnes. Et après, les questions ouvertes, en fait, il y a des systèmes de tri automatique. Si la personne, tu vois, on peut voir, en fait, si elle n'a pas répondu beaucoup de mots, bah, du coup, généralement, si tu lui demandes ses motivations, elle t'a répondu moins de 20 mots, bah, du coup, je vais l'éjecter sans lire, ce genre de truc, tu vois. Donc, c'est assez basique. Et j'essaye de limiter. Et là, du coup, j'en étais arrivé à, entre les 8000 de base, il m'en est resté 50 à la fin. Aux 50, tout a été automatisé. J'ai fait en sorte de pas avoir prendre de temps là-dessus. Juste avec des critères, tu vois, tout bête, hein. À partir de ça, les 50, ils ont l'air motivés, mais je sais pas plus. Et là, je leur envoie une petite épreuve, un test de compétences. Là, les épreuves, je les ai reçues. Faut savoir que sur ceux qui les ont renvoyées, c'est un truc tout bête, tu vois. Donc, créer une sorte de fausse page de vente, du coup, où ils doivent me vendre, en fait, une niche pour enfants.
Tu vois? Une niche pour enfants? Pour que ton enfant il puisse être dehors dans la pluie.
Non, mais tu vois, Stan, je sais que t'as un enfant. Si t'es intéressé par le produit, c'est un produit virtuel un jour. Ouais. Non, mais voilà, en tout cas, c'était un angle audacieux qui montre aussi, du coup, ça trahit aussi, on va dire, des trucs, en fait, liés à l'entreprise, le côté un peu fun et décalé. Donc, si la personne n'est pas à l'aise avec ça, elle va pas répondre et tout. Donc, en gros, sur les 50, il y en a qu'un tiers qui ont répondu, qui ont renvoyé. Donc là, j'en avais 17. Et sur les 17, il y en a la moitié qui n'ont pas rempli les critères minimum d'intérêt de leur annonce. Donc, il y en a 8. Et les 8, là, ensuite, je vais faire des speed entretiens qui vont durer 10 minutes grand max, où en fait, ça me permet de voir le feeling, si la personne sait réagir, si du coup, les qualités de base sont remplies. Et si ça s'est rempli, à l'après, ils viennent sur place ou alors à distance, mais peut-être sur place là, du coup, où pendant une heure, en fait, on va faire une sorte de jeu de rôle où du coup, c'est comme s'ils bossaient avec moi. Là, c'est un nouveau process que je suis en train de tester, mais le but, c'est de pouvoir être le plus sûr possible en passant le moins de temps possible que la personne est la bonne.
Mmh. Ouais, le process, c'est vraiment intéressant et c'est assez proche de ce que nous on fait. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a quand même un avantage qui est d'avoir la pipeline de candidats, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui, moi, je connais des gens, des entrepreneurs, pour qui un défi, c'est... positionner leur entreprise pour attirer des bons candidats, pour que les gens aient envie de travailler pour toi, tu vas remplir en fait la pipeline de bons candidats. Et en fait, si tu as une chaîne YouTube, et en fait, la question c'est, je sais qu'il y a des talents incroyables dans ma chaîne YouTube, la question c'est comment est-ce que je les filtre. Donc après, effectivement, c'est comment est-ce que tu fais pour mettre en place des étapes au départ automatisées pour éliminer le maximum de gens le plus rapidement possible, pour pouvoir passer ton temps avec les autres et les sélectionner, et avoir un petit projet test. Nous, on a un élément comme ça, c'est assez intéressant, c'est le process est assez proche. Plus largement, toi, tu as eu pas mal de personnes au fil du temps. Et si on suit tes vidéos qui sont taguées comme épopée du Kundar, on a un peu tes hauts et tes bas en termes de management. Et il y a des fois où tu évoques des difficultés, des personnes dont tu as dû te séparer. Toi, c'est quoi les principales erreurs que tu as fait en matière de management et les leçons que tu as apprises pour changer ta manière de faire?
Alors, c'est simple, hein. Généralement, quand il y a un problème dans le recrutement, c'est con, c'est qu'en fait, c'est un nouveau poste. Ça, c'est à chaque fois, enfin, c'est pas à chaque fois, mais quand il y a un nouveau poste, c'est dur, en fait, de savoir exactement ce que tu veux ou quelle est la personne idéale. Donc, bah, les chances de te tromper sont quand même bien plus élevées. Par contre, quand t'as déjà eu une personne, tu vois, rédac, monteur, là, c'est presque du gâteau, tu vois. Enfin, c'est dans le sens où, du coup, ça va parce qu'on sait, les gens qui bossent avec nous, etc., ce qu'on veut et tout. Donc, bah, tu vois, par exemple, l'assistante, c'est ma troisième parce que les premières avaient pas fait l'affaire. Du coup, j'avais différents postes, en fait, du coup, fait que, du coup, bah, par exemple, ma responsable du bonheur, un poste encore très particulier, du coup, c'était peut-être pas non plus le poste qui lui convenait en vrai, du coup, réellement. Du coup, il y a peu des trucs comme ça. Il peut y avoir des game designers avec qui j'ai bossé, donc les gens qui conçoivent les jeux vidéo, la structure, c'est pareil. Du coup, j'en ai eu deux, j'étais pas trop satisfait, en fait, tu vois. Mais à chaque fois qu'en fait, quand un truc fonctionne pas, c'est facile aussi de pouvoir dire, en fait, plus facile de voir, en fait, si c'est la personne qui a fait l'affaire ou à qui a pas fait l'affaire. Donc, en réalité, c'est aussi ça, une leçon qui est hyper importante, c'est que dans tous les cas, à chaque fois, c'est ta faute. C'est toi qui l'as embauché, c'est toi qui a fait les candidatures, c'est toi qui lui a fait les tests que tu avais besoin, c'est toi qui a choisi de la garder et tout. Donc, même si c'est elle qui a merdé, en vrai, c'est d'une certaine manière de ta faute. Et c'est plus rassurant de se dire ça parce qu'en fait, on contrôle toujours la situation et on peut toujours la rectifier. Alors que, surtout quand on est boss, hein, ou patron, si on reporte la faute sur le salarié, on dit ouais, mais c'est lui et tout. Ouais, mais tu vas jamais t'améliorer si tu dis ça, quoi.
Ouais. Et à ce niveau-là, au niveau de comment est-ce que tu as appris ces compétences, enfin, tu vois, d'être patron, on voit quand tu as commencé tes vidéos, tu étais essentiellement. T'étais jeune, t'étais chez tes parents, t'étais un peu, enfin, on voyait que t'étais un peu paumé dans ce que tu voulais faire et que t'as eu beaucoup de zigzags. tu te positionnes aussi parfois dans la manière dont tu te décris comme étant une personne plutôt timide dans ton passé ou peut-être pas une personne qui était vouée à être face caméra et autres. Comment est-ce que ça a apporté sur le fait de gérer des personnes, d'avoir toute une équipe? Est-ce que ça influe sur ton style particulièrement en termes de management ou comment est-ce que tout ça tu l'as intégré?
Je pense, tu vois, Stan, ça doit jouer parce que moi, de base, je pense pas être timide. Je l'étais quand j'étais gamin, mais après, ça a changé. Après, j'étais juste introverti et réservé ou au pire bizarre. Tu vois, le gars qui se reclut, qui participe pas trop aux soirées ou ce genre de choses parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, ça se ressent forcément dans mon style aussi de patron, dans le sens où, du coup, l'autonomie, la liberté, c'est hyper important. Parce que, honnêtement, tu vois, par exemple, quand j'étais au lycée, moi, les temps du midi, j'allais pas avec mon groupe de potes, ce genre de choses, parce que j'avais pas de groupe de potes. Au pire, j'avais un ou deux amis, en fait. Et alors, du coup, je me baladais dans les parcs. Ou s'il y avait pas de parc, j'allais dans les cimetières, je bouquinais, ou alors je rêvassais. Vraiment, je faisais ça. Et après, je revenais en cours, où, du coup, je glandais pas grand chose, où je dessinais. Et du coup, voilà. Toujours le gars un peu à l'écart et qui est, voilà. C'était un peu mon style et donc du coup quand en tant que patron, bah en fait j'aime bien quand la personne elle ait pas besoin de me commander, qu'elle soit autonome, qu'elle ait le sentiment aussi de pouvoir contrôler ce qui est fait, d'avoir une bonne autonomie, tout ça. Donc c'est des valeurs hyper importantes à mes yeux. Et les gens par exemple, tu vois, typiquement mes salariés ils notent leurs horaires dans le sens où ils disent quand ils arrivent ou quand ils partent, mais ça peut être à distance et je leur fais conscience, tu vois. Donc s'ils veulent bosser que la moitié du temps cette semaine, bah ils rattrapent l'autre semaine ou alors plus, etc. Et ils notent les gens quand les moments où ils ont envie de prendre des pauses ou enfin tu vois, ils font vraiment comme ils veulent, comme un entrepreneur, sauf que l'entrepreneur il va pas compter ses heures, quoi, on va dire.
Ouais. Donc essentiellement ici tu es sur un mode où tu veux pas être derrière les gens parce que finalement c'est pas ta passion d'être sur des check-in quotidiens avec les gens et de toujours être sur leur dos. Tu veux au maximum qu'ils aient une autonomie. Pour que toi, tu puisses avoir l'autonomie, il faut qu'on parle tout à l'heure de tes autres projets que tu as fait. Et finalement, je vais évoquer la question des bureaux, puisque assez rapidement, tu as eu des bureaux, tu as eu plusieurs. Pendant un moment, tu avais tout le monde dans ton appart, mais on voit que tu as toujours fait un effort d'avoir des gens en présentiel. Tu as ensuite déménagé tes bureaux entre différentes villes, etc.
Grenoble. Ouais,
parle-moi un petit peu de pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'avoir des bureaux versus le faire à distance, par exemple, dans la mesure où, tu vois, tu décris l'autonomie que les gens vont avoir. Dans quelle mesure est-ce que les bureaux étaient importants pour toi?
Bah, c'est un autre destin que j'ai pas eu. C'est tout. C'est dans le sens où c'est vrai, je pourrais très facilement, du coup, avoir que des gens à distance. Et puis, c'est une part de moi, honnêtement, tu vois, je suis ravi d'avoir des gens en présentiel parce que, je pense, initialement, c'était, on va dire, le côté chaleureux et on va dire famille, dans le sens où, du coup, avoir un endroit où tout le monde peut se réunir, où, du coup, il y a une cohésion d'équipe, que, du coup, j'ai l'impression, avec des bureaux en physique, on peut avoir plus facilement qu'à distance, tu vois. On n'a pas les mêmes saveurs quand les amis, du coup, on les voit qu'à distance ou alors que quand on les voit en vrai. Après, mes salariés sont pas mes amis, mais dans le sens où, du coup, ça crée un lien différent, quoi. Et c'est ça que je voulais au départ. C'est ça, en tout cas, c'était la pensée que je pensais vouloir. Et c'est vrai que c'est quand même cool. Mais parfois, je rêve ou du coup, je m'imagine, du coup, avoir des salariés où, du coup, ils bossent de chez eux ou alors dans des espèces de coworking et où personne se voit jamais. Et moi, j'ai mon appart et je parcours le monde et je suis libre aussi comme ça. En fait, comme du coup, je t'ai dit que du coup, la notion d'autonomie, de liberté est importante. C'est vrai qu'on pourrait tendre plus vers ça. Et à titre perso, je peux le faire. Hein. Du coup, je peux ne pas être du tout au bureau ou pas bosser et tout. C'est pas un souci. Mais c'est pas la voie que j'ai choisie et dans la mesure où les gens sont en présentiel, c'est plus simple. Après, ça dépend. Tu vois, la chaîne YouTube, c'est le cas, mais tous les autres projets, en fait, c'est plus compliqué. Des gens juste à distance, quoi. C'est quand même plus délicat parce que ça implique d'avoir des échanges, de montrer des choses physiques ou ce genre de choses. Donc là, voilà. Toutes les entreprises s'y prêtent pas non plus, quoi.
Et du coup, toi, concrètement, tu passes toutes tes journées au bureau, t'y vas que quand t'as besoin. Comment ça se passe au niveau de ta présence, toi? Parce que moi, c'était un point qui, pendant un court moment ici, à Bangkok, on avait eu des bureaux. Et en fait, le truc, c'est que moi, ça me saoulait d'y aller. Parce que j'allais au bureau, j'arrivais pas concrètement correctement à me concentrer pour bosser et pour écrire. Et donc, du coup, le bureau, c'était plus pour les autres, pour qu'ils aient un endroit où aller.
Ouais.
Donc, ça c'était
tu
un
pouvais
point.
pas te mettre en
J'avais un
deep
petit
work,
peu
c'est
de
ça, en
mal
gros,
avec
du
ça.
coup, au boulot.
Ouais, et donc après, du coup, et à un moment donné, ils sont partis parce que on s'était juste rassemblés à Bangkok pendant 6 mois, et puis au bout de 6 mois, ils sont partis. Et moi, en fait, j'ai gardé les bureaux. Et j'ai trop kiffé, j'y allais tous les jours. J'y
Ah
allais tous les
ouais,
jours et
ok.
je passais mes journées dans le bureau quand j'étais tout seul, tu vois. Ça va, c'est un peu. Donc, du coup, j'ai appris que le présentiel, pour moi, c'était compliqué, notamment, tu vois, pour écrire.
Mais du coup, juste par rapport à ça, Stan, du coup, pourquoi, du coup, quand tu étais seul, c'était plus simple?
Bah, en fait, quand ils étaient là, il y avait des gens, je les voyais, ils discutaient, j'entendais plus ou moins ce qu'ils racontaient, j'avais envie de m'impliquer dans ce qu'ils faisaient, ils avaient des questions pour moi, etc. Tu vois.
Ah.
Quand j'étais tout seul, j'arrivais. En plus, c'était une période où j'étais en mode. Proche du moine total, parce que j'écrivais mon livre et c'était des trucs où j'étais sur mon livre, tu vois, pendant 5-6 heures par jour en focus complet. Donc, du coup, j'avais besoin d'être en focus complet. Et quand j'étais dans le bureau avec des gens autour, tu vois, c'était pas pareil pour écrire ton livre versus être chez toi.
Comme je suis sur l'écriture, normalement, c'est pareil, c'est mort. Il n'y a pas une seule personne à côté de moi, ou alors il ferme sa bouche, quoi.
Voilà. Et moi, une grande partie de mes tâches sont à ce niveau, parce que même quand j'écris des vidéos, mes vidéos sont des projets assez, comme ça, assez profonds. J'écris mes emails tu vois, de vente, mes pages de vente. Donc, j'ai quand même pas mal de tâches qui sont à ce niveau-là, que je considère comme étant mon travail le plus important, tu vois. Donc, en fait, si le bureau, c'est pas propice à mon travail le plus important, j'ai l'impression que je vais au bureau pour des tâches autres. Après, j'y allais au bureau, tu vois, pour discuter avec les gens, etc. Mais pour mon travail à moi, c'était pas l'idéal, même si je pense que pour le reste de l'équipe, ça avait une vraie valeur. Bah surtout parce que toi, tu te retrouves. C'est une chose de travailler depuis chez toi, mais comme on était aussi à l'étranger pour eux, c'était aussi une bonne chose d'avoir un endroit où aller. Je pense que c'était une bonne chose d'avoir un point de focal pour l'équipe. Mais moi, pour ma productivité personnelle, c'était pas idéal. Mais du coup, je voulais voir, toi, comment tu t'organises par rapport à ça. Est-ce que tu considères que c'est important d'être là toute la journée? Est-ce que c'est. Les gens savent que tu fais autre chose à côté, que tu bosses autrement? Comment ça se passe?
Non, mais je suis d'accord avec ce que tu racontes. C'est vrai que c'est bien, enfin, c'est quand même un point intéressant de pouvoir dissocier de chez soi, du coup, de là où on bosse. Mais après, parce que tout le monde chez soi n'a pas forcément une pièce dédiée juste au boulot. Donc, c'est ça aussi le problème. Et aussi, il y a aussi le contact social qu'on n'a pas chez soi. Donc, les bureaux ont un intérêt. Après, que le patron y soit tout le temps, non. Après, il y a beaucoup, en fait, la plupart du temps, c'est juste des pensées limitantes. Donc, tu peux jamais y être. Mais c'est vrai que, du coup, peut-être l'équipe a moins le sentiment que tu es présent, dans le sens de tous les sens du terme. Donc, que tu y passes de temps en temps, c'est cool. Voilà. Mais après, faut. Bon, voilà. Il faut imaginer aussi une entreprise où il y a 1000 salariés. La plupart du gens, du temps, les gens, ils voient pas le patron et puis ils vont pas. Voilà, ils vont se faire une raison, quoi. Donc c'est un peu pareil, sauf que là, c'est des petites équipes dans lesquelles on est. Donc moi, j'essaye d'être présent. J'essaye d'être présent. En fait, j'avoue, je le suis de moins en moins et en fait, je bosse ici. Dans tous les cas, je suis présent au bureau, mais je bosse dans cette pièce où je suis seul. Et éventuellement, je pourrais être au bureau, mais les bureaux n'ont pas été pensés tels quels. Ou du coup, mais c'est pour ça que j'ai parlé de deep work. Deep work, c'est quand on est focus sur une tâche qui demande toute notre concentration. Faut pas être déconcentré, faut pas que quelqu'un nous demande machin, faut pas de discussion. Et ça. Je me dis peut-être dans une autre entreprise que je crée, je testerai ça, c'est-à-dire que on a une grande pièce, genre open space, mais du coup il y a des petites cloisons insonorisées entre chaque, et du coup il y a un ordi et tout, ou alors des trucs en verre, et du coup comme dans une bibliothèque, interdiction de parler, ou juste chuchoter, il y a du tapis au sol et tout, donc où il n'y a pas le moindre bruit, et il n'y a pas le moindre échange entre les personnes. Et si les gens ont besoin de parler, en fait, ils vont dans une autre pièce où c'est le travail plus superficiel, où il y a des grandes tables, du coup plus façon grande table où du coup les gens discutent et tout, et après il peut y avoir aussi une salle un peu café où les gens discutent de manière plus informelle. Mais au moins, l'espace deep work, où c'est les travails profonds, de concentration à fond, là, il peut pas y avoir ça. Et là, peut-être, je serais à l'aise avec cette idée-là, mais dans nos bureaux actuels, ils sont plus en mode open space. Et quand il y a, genre, s'il y a tout le monde, on peut être une dizaine, tu vois, 10, 15, du coup, il y a plusieurs bureaux, bah, en fait, il suffit qu'il y en a un, et du coup, il ait trouvé un truc drôle, il va le montrer à quelqu'un, il va mettre le son, ensuite, ils vont rigoler fort, ensuite, ils vont parler. Pour le travail superficiel, ça passe, hein, mais pour les tâches où on a besoin d'être concentré, ça me pète les pieds, quoi. Et j'ai pas après de solution sur ça dans les bureaux actuels qu'on a. Donc voilà, après les choses s'améliorent doucement aussi, quoi.
Ouais, c'est une bonne remarque. C'est vrai que si tu avais une pièce séparée ou si tu pouvais l'organiser, ça résolverait ce problème. Le dernier point sur la question des bureaux, c'est que tu mentionnais le fait que tu avais déménagé tes bureaux de Grenoble vers Lyon et tu mentionnais le fait que ça avait été un projet de le faire. Dans quelle mesure est-ce que c'est important d'être à Lyon? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de déménager là?
Ah ben c'est je pense que du coup c'est plus par on va dire l'intérêt principal ça va être la notoriété dans le sens où c'est une ville beaucoup plus grande où il y a plus d'attractivité où du coup on peut aussi probablement convaincre et convertir davantage des profils intéressants.
Ouais.
Tu vois, là on est au centre de Lyon à Place des Terreaux,
Ouais.
du coup on est hyper bien situé et donc bah on voilà, on est hyper bien situé. Quand j'ai envie de me déplacer ou aller à l'aéroport, c'est facile et tout. En fait, du coup, c'est un pôle d'attractivité plus fort que Grenoble qui était reclus dans les montagnes.
Ok, donc c'est principalement en termes de recrutement et d'avoir un pool de talents plus grand et plus facile pour les gens d'y déménager.
La ville est chouette aussi, elle est
Ouais.
attrayante et tout. Donc, c'est après tout un tas de facteurs comme ça, quoi. On est un peu plus proche de Paris aussi, donc voilà.
Ça marche, ouais, je vois. Finalement, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de tous les projets annexes qui sont une part énorme de ton parcours depuis le début. Tu as toujours parlé je pense que le premier dont tu parlais beaucoup, c'était le fait d'écrire un roman que tu voulais faire et dont tu as parlé pendant très longtemps. Après, toi, tu as lancé tout un panel de chaînes, tu as lancé des formations en ligne, tu as lancé des jeux vidéo, récemment, tu as lancé plus un service. Donc, j'imagine que c'est là où tu passes une grande partie de ton temps, puisque tu t'expliquais que sur les vidéos en elles-mêmes, tu avais relativement peu de temps à passer.
Ouais, honnêtement, sur la chaîne
Ouais.
YouTube, même si je fais 3 vidéos par semaine, je suis sur facilement, je suis sur la semaine de 4 heures, tu vois.
Ouais.
Je passe 4 heures par semaine, s'il fallait étaler, enfin, tout ça. Mais après, du coup, le temps, il est passé sur d'autres trucs. Comme je te l'avais un peu dit rapidement, je suis sur. Là, du coup, je suis vraiment sur l'écriture d'un roman. C'est pas le roman que j'ai teasé, mais un autre
C'est pas le
projet.
roman initial?
Non, parce qu'en vrai, après réflexion, je me suis dit, c'est un roman de fantasy. La probabilité qu'il puisse marcher et tout, que je fasse un Tolkien bis, c'est quand même assez peu probable. Donc, comme quand je fais un projet, je suis toujours assez ambitieux. Même si c'est un petit projet, j'imagine toujours qu'il puisse y avoir un peu de lumière derrière et que ça puisse marcher. Donc, autant mettre toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai un peu restructuré. Mais en gros, voilà. Je passe presque tous les jours à écrire dessus. Donc, c'est tous les matins. 2, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Je teste plusieurs formules pour voir où je suis plus efficace. Et voilà, là, le roman est bien avancé. Hein. Ça dépend les gens, mais peut-être quand vous écouterez l'interview, il sera déjà terminé, en fait, du coup. Donc, j'en suis aux 2 tiers actuellement, quoi. Et il sera en crowdfunding, c'est pour ça que je recrute une personne liée à ça, parce que c'est pas qu'un simple roman, c'est un roman qui est très différent de ce qu'on voit d'habitude.
Du coup, ton modèle, tu le partages dans tes épopées du Kuna, ça a toujours été, on a la chaîne YouTube, ça marche, ça génère de l'argent qu'on peut utiliser pour recruter les gens et pour faire d'autres projets. Tu mentionnais dans ta dernière épopée, environ 60 000 euros par mois qui permettaient de financer toute l'équipe, etc. Mais du coup, là-dedans, pourquoi est-ce que tu vas faire un roman? C'est quoi ta logique derrière? Pourquoi tu décides de faire ce projet en particulier? C'est des projets qui, toi, te font kiffer et tu as décidé de faire ça? Ou est-ce que tu réfléchis d'une autre manière à cette question-là? Sur le choix des projets que tu vas faire annexe. Comment est-ce que tu choisis de financer, de mettre ton temps?
Alors tu vois, le roman, en fait, c'est un truc un peu à part, dans le sens où c'est le truc qui me demande le plus d'implication, parce que c'est important que je le fasse moi-même, en tout cas l'écriteur, parce que je t'ai dit, il y a aussi d'autres trucs. Il y a de la musique, il y a des illustrations, et ça, c'est pas moi qui m'en occupe, la gestion de la campagne et tout, donc il y a plein de trucs que je peux déléguer. Je pourrais déléguer aussi l'écriture, hein, mais du coup, voilà, là, c'est pas le cas. Et le roman, en fait, ça va être simple, c'est que du coup, pendant le confinement, en fait, je voyais que j'avais du temps et que, en vrai, trouver quelques heures par-ci par-là tous les matins, si c'est pour faire d'autres conneries, autant que je puisse écrire quelque chose qui aura un impact et qu'il y aura une empreinte dans le temps. Donc là, j'ai essayé de faire un truc facile. J'essaye de pas viser un trop gros roman. Bon, finalement, il est pas si petit que ça. Bon, il fera toujours moins de 300 pages. Mais bah bon, voilà. En tout cas, là, je commençais par quelque chose de pas trop ambitieux en termes de roman. Je trouve qu'il est pas trop ambitieux et ça me permet de me roder, de tester l'intérêt des gens auprès de ça. C'est pour ça que je fais une campagne. Et donc, si ça marche, après, j'ai envie de me lancer dans une saga directe. Une saga qui pourrait ressembler un peu à Harry Potter, mais avec des airs différents, sans trop pouvoir en dire là-dessus. Mais bah du coup, j'essaye de me roder. C'est comme faire une première vidéo avant de te lancer dans une série de vidéos ultra, ultra calées dessus. Donc, je me remets un peu les pieds dedans, et puis voilà, c'est un projet de longue haleine, et ça peut durer potentiellement toute la vie, quoi, en fait.
Pour toi, c'est un espèce de kiff, c'est une nouvelle carrière, c'est pas vraiment un projet de monétisation en
C'est une
particulier.
carrière, mais comme tu le disais, c'est vrai que j'ai souvent dit que du coup que j'étais sur un roman et tout, donc au final ça s'est jamais fait, donc je me dis, putain, ce serait peut-être bien que je le réussisse au moins ce petit truc. Et après, après il faut se dire aussi, faut être honnête avec soi dès le départ, sinon on abandonne, combien de temps ça va me prendre? Et là, je me suis dit, ok, je sais que ça va me prendre des centaines d'heures. Donc, Inch'Allah, comme on dit, et puis voilà, personne ne dit ça. Mais bah, je suis parti pour écrire pendant 6 mois, quoi.
D'accord, donc pendant 6 mois, t'écris ton roman de 300 pages, c'est le temps que ça prend.
Bah en fait, ouais, attends, j'ai commencé en début janvier et avant j'avais fait un plan et tout le bordel, la création de l'univers, ça m'avait pris 2 mois. Donc ouais, c'est ça, et j'ai fini dans bientôt là.
Ok. Et donc après, tu vas faire une campagne de crowdfunding à ce niveau-là, donc tu fais quand même levier directement sur ton audience. C'est pas un projet qui est déconnecté, quoi.
Ouais, non, carrément. Ça, et après, il faut aussi se dire que statistiquement, j'ai des grandes chances de pouvoir récolter plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ouais.
Si je me base sur les campagnes qui ont fonctionné, en fait, je demanderai peu au début, tu vois, probablement autour des 35 000 comme la plupart. Mais si le projet a suffisamment intéressé les gens et qu'ils sont intéressés par l'originalité qu'il y a dedans, parce qu'en gros, il y a masse d'illustrations et il y a de la musique dans le roman. Et quand je dis masse, c'est qu'il y a une illustration par page et la musique, c'est lié à une application qui est synchronisée au roman où du coup, il y a une musique qui accompagne tout le long comme une sorte d'OST. Donc, c'est ça les éléments originaux. Au-delà, en plus de la thématique de roman.
Ouais.
Et donc, si ça séduit les gens et qu'ils ont été, ils sont hypés par le fait que j'ai toujours dit que j'écrivais un roman, peut-être qu'il y a moyen de faire un petit hold-up et de récolter plein de thunes qui me permettra d'investir dans des nouveaux projets. Moi, c'est mon côté un peu Elon Musk où dès que j'ai de la thune, je réinvestis ouais. tout pour créer des projets plus ambitieux.
Des projets qui ont beaucoup, dont tu as beaucoup parlé au fil des années, c'était tous tes projets de jeux vidéo. J'ai l'impression que tu les as un peu plus mis de côté récemment. C'est quoi ton bilan sur cette période et sur ces tentatives au niveau de la création de jeux vidéo? Parce que c'est un rêve que beaucoup de gens ont. Et toi, tu l'as vraiment fait, tu as vraiment dit, ouais, je vais mettre, j'ai le budget, je vais vraiment le faire, ce qui est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu en retires?
Bon, après, ça n'allait pas tant que ça. Après, c'est juste que quand tu es comme moi et que du coup, tu vois, quand tu as de la thune, tu la dépenses toujours avec des salaires en plus ou alors des projets en plus. Ouais. Bah, c'est quoi? Ça coûte de l'argent, mais pas tant que ça. Enfin, tu vois, genre, les jeux vidéo, ils m'ont coûté entre 50 et 100 000 euros à chaque fois. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup, en fait. Un entrepreneur, il peut faire 100 fois plus de thunes que ça. Enfin, c'est pas un souci. Et quand, du coup, c'est pas ça, et un YouTuber, parce que, honnêtement, moi, je gagne finalement pas plus de thunes qu'un autre YouTuber qui aurait mon nombre d'abonnés. C'est juste, s'il fait autant d'OP que moi, ou qu'il est dardard sur les contenus, il peut gagner plein de thunes. C'est juste que lui, peut-être, il va s'acheter des belles bagnoles, une maison et tout. Moi, à titre perso, je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai pas de truc individuel. C'est vrai que je passe beaucoup de thunes en Uber Eats, mais c'est vrai que ça représente un loyer, peut-être. Parfois, je me dis, je sais pas, mais parce que, voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est en projet. Donc, j'ai testé les jeux vidéo, je m'y suis mal pris, j'ai appris plein de choses. Ça a pas fonctionné, j'ai mal évalué les trucs parce que c'était, j'y connaissais malgré ma passion pour les jeux vidéo et le fait de penser savoir faire des jeux, en vrai, entre ce qu'on pense savoir faire et ce qu'on doit savoir faire pour pouvoir avoir un jeu qui marche, si on met en plus de côté toute la part de hasard dans le fait de réussir, bah j'ai pas réussi, quoi. J'ai appris beaucoup parce que chaque échec est un apprentissage, mais c'était pas GG, quoi, on va dire.
Ouais. Et donc là-dessus, tu dirais que, parce que moi, tu vois, la question qui me ferait personnellement peur, c'est de me dire, je suis en dehors de ma zone de compétence. Tu vois. Je m'éloigne trop d'un truc que je connais.
Ouais, moi, je suis tout le temps.
Et toi, tu y es tout le temps.
Ouais. Bah ouais. Mais c'est que même les vidéos et tout. En fait, je le vois direct dans les vidéos YouTube. C'est quand t'es hors de ta zone de confort, bah du coup, le nombre de vues, ça se ressent direct, tu vois. J'ai testé des nouveaux formats, parce que comme je dis, je teste régulièrement des nouveaux. Et quand tu vois que tu fais 5 fois moins de vues, tu fais waouh, il y a problème. Ou alors, parfois, tu en gagnes plus. Après, c'est toujours aussi un peu la loterie. C'est juste que tu rejoues à chaque fois et tu essayes de viser. Mais. Ouais, les projets, c'est tout le temps ça, et ça va pas en s'améliorant, en plus, hein, honnêtement, tu vois. Là, les jeux vidéo, finalement, bon, bah, je parlais du fait que je voulais créer un jeu, finalement, les gens, ils s'y habituent et tout. Donc, ils se disent, ouais, pourquoi pas, même si entre YouTube et les jeux vidéo, il y a rien à voir. Hein.
Ouais.
C'est pas du tout les mêmes corps de métier. Et là, après, je suis sur le roman, donc ça a rien à voir avec YouTube aussi, quoi, même si on peut faire des ponts. Et là, je suis sur des nouveaux projets qui ont encore une fois, mais rien à voir. Là, je suis sur un projet, du coup, qui mixe les Minecraft et les Lego, quoi. Dans le sens où, du coup, c'est des cubes qui sont magnétiques dans le projet à l'état actuel et qui permettent de construire dans la vraie vie, en fait, comme les Lego des constructions, mais avec le côté waouh de Minecraft, c'est-à-dire que t'as pas besoin de les emboîter et tout. Ils collent tout le temps.
C'est,
ça n'a rien à voir, en fait, avec ce qu'on fait actuellement. Il y a d'autres trucs, en fait, qui me font kiffer, tu vois, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait actuellement, tu vois. Et moi, ça ne me fait pas peur, je m'en fous. C'est juste que quand tu te lances dans un nouveau truc, comme tu dis, c'est hors de ta zone de confort, donc faut te préparer, tu mets tes joues en avant et tu prends des bonnes gifles. Et après, tu essayes de limiter la casse en essayant de voir d'autres personnes qui l'ont fait ou en lisant des bouquins sur le sujet ou des reportages, mais c'est pas évident parce qu'il n'y a jamais toutes les infos, quoi. Donc, ça ne me fait pas peur, je teste. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu as une espèce de frustration de faire juste du YouTube. Moi, je dis parfois, moi, tu vois, en termes d'entrepreneuriat, je me dis, YouTube, c'est génial et j'adore créer du contenu et j'ai envie de continuer à créer du contenu pendant longtemps. J'aime bien avoir cette audience. Mais si dans 10 ans, tout ce que j'ai fait, c'est faire une chaîne YouTube, je me dirais, ah, mince, tu vois, j'aurais voulu pouvoir faire levier sur cette chaîne pour créer d'autres business, tu vois, pour faire des trucs différents. Est-ce que tu as aussi un petit peu cet aspect où tu te dis, la chaîne YouTube, c'est génial, mais c'est aussi encore mieux en tant que tremplin pour construire autre chose?
Bah oui, pas 100%. C'est pour ça que, comme je te le dis, tu vois, toute la thune sert à créer des nouveaux projets. Donc, c'est 100% le cas. YouTube, c'est pas, je le vois pas comme un tremplin parce que ce serait réducteur, parce que, en fait, c'est une fin aussi en tant que telle. Il y a plein de gens, une majorité, probablement, ils s'arrêteront juste sur la chaîne YouTube. Ils regarderont même pas le ZDK, ils s'en battent les steaks, ils apprennent juste des choses de manière ludique dans mes vidéos, et puis, tant mieux pour eux, et c'est ok, ça me va très bien. Mais moi, ça me sert pas qu'à ça, quoi. Avant même d'avoir réussi à avoir une chaîne YouTube qui marche, si on revoit le DK1, en fait, on apprend que avec mon air de teubé, avec mon chapeau sur la tête, en fait, du coup, que je voulais créer une entreprise et faire des projets, et que YouTube, ça me permettrait aussi de faire ça. Donc, ça a toujours été aussi un but. Mais YouTube est très bien aussi, et c'est top, quoi.
Yes, ouais, c'est sûr. Mais de toute manière, c'est vraiment ce côté où tu te dis... les vidéos, c'est vraiment un truc créatif, vraiment fun. Et où tu te dis, putain, si j'avais pas ça d'un autre côté, tu vois. Moi, je vois des gens, je connais beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, dans l'e-commerce, etc. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, quand même, ils ont pas ça, tu vois. Ils ont pas un truc où ils peuvent raconter des trucs et ça intéresse des gens d'écouter ce qu'ils ont à raconter. Et ouais, ça, c'est un truc assez ouf, tu vois. Même en dehors du côté business, etc. Tu dis tout d'un coup, si un truc t'intéresse et que tu as envie de passer du temps à faire des recherches et à sortir, à dire, regardez les gens, ce truc-là, il est vachement intéressant. T'as vraiment un endroit où le mettre. Alors qu'en fait, sinon, je trouve que c'est vrai, c'est le côté de pouvoir avoir les deux, comme tu peux l'avoir fait, de aussi pouvoir avoir une équipe. Parce que je pense que, toi, c'est peut-être une pression que tu ressens moins, mais je pense qu'il y a une vraie pression du YouTuber qui est tout seul, qui dit, je dois produire, quoi. Je dois sortir, je peux pas m'arrêter, je dois continuer à foncer, parce que sinon, si je m'arrête, je gagnerai pas d'argent, et deux, les gens vont m'oublier. Donc, il y a quand même une pression. Et dans ce cas-là, tu commences à avoir une envie de dire, bah, tiens, ouais, l'entrepreneur qui peut facilement déléguer, etc. Toi, je pense que tu es un peu le meilleur des deux mondes à ce niveau-là, dans l'équipe que tu as réussi à construire, dans la mesure où tu n'es pas écrasé non plus par cette pression de produire.
Ah, mais
tu
as raison.
Tout en produisant beaucoup.
Bah, c'est ça, mais c'est parce que je l'ai conscientisé, tu vois, dans le sens où je me dis, il faut produire du contenu qualitatif tout le temps. Pour du coup garder la forme et tout, et que du coup il y a les autres projets, donc à ce moment-là toi t'es pas, tu sais, t'es un humain, donc moi je sais que quand je faisais tout moi-même, tu peux pas tenir pendant des années en fait ce rythme hardcore de même une vidéo par semaine, tu vois. Je sais que moi je l'ai tenu pendant un an, mais au bout d'un moment, tu sais, en fait il y a des autres événements, et du coup quand tu fais que ça, tu peux rien faire d'autre, donc si t'es tout seul, en fait, tu peux te dire que tu fais un trait sur tout le reste. Ou alors, du coup, au bout d'un moment, tu es obligé de sacrifier un truc. Donc, voilà. Moi, j'ai pas envie de sacrifier.
Ouais, tu peux pas vraiment faire de projet annexe si tu fais beaucoup de vidéos. Si tu fais une vidéo par semaine, t'es un YouTuber, quoi.
C'est ça.
Et tu fais un autre. Tu t'écris pas de roman.
Tu peux, mais du coup, tu peux pas tout faire autant, quoi. Tu peux pas avoir un rythme aussi intense,
ouais,
quoi.
Ouais. Faut réduire.
Donc moi, ce que j'ai sacrifié, dans tous les cas, il faut sacrifier un truc. Donc moi, par rapport à ce que je fais actuellement, ce que j'ai sacrifié, c'est le plaisir d'écrire et de monter les vidéos. C'est pas grave, hein. Au bout de deux, j'ai déjà fait, je sais pas combien de dizaines ou peut-être 100 vidéos, je les ai fait moi-même, c'est bon, j'ai apprécié de le faire, mais je passe à autre chose, quoi.
Ouais. Chris, pour terminer cet épisode, il y a trois questions que je pose à tout le monde. Et la première, c'est, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Ouais. Bah, je lis beaucoup de bouquins, mais... il y en aurait un, du coup, peut-être que vous avez déjà entendu, il s'appelle Sapiens, du coup, de Harari, qui est génial. Là, je suis en train de lire la suite, du coup, le dernier, je crois, c'est 21 leçons pour le 21e siècle, qui est très intéressant aussi. Ouais. Sinon, peut-être un peu moins connu et qui est tout aussi cool, c'est, comment il s'appelle ? C'est Le principe de Lucifer, de Howard Bloom. Qui est génial aussi, et qui est tout aussi waouh, je trouve, que Sapiens, et qui montre en fait que les humains sont régis par des choses qu'ils comprennent pas, qui vont au-delà d'eux, qui vont au-delà de leurs émotions, et qui est vraiment génial aussi. Donc rien à voir avec YouTube, mais...
C'est aussi un bouquin comme Sapiens sur l'évolution humaine, etc. C'est un peu dans la même catégorie.
Carrément. Aussi. C'est juste, il prend un angle différent, mais qui est hyper passionnant. Voilà.
Ok. Howard Bloom, effectivement. Deuxième question, Chris. en mettant de côté toutes les questions de paradoxe temporel, de pouvoir changer ton futur, etc. Si tu pouvais revenir en arrière et voir ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là, il avait besoin d'entendre dans sa vie ?
En vrai, tu vois, quand on me pose cette question, en fait, c'est difficile parce que, honnêtement, tu vois, en fait, il y a trop de choses en fait, qu'il a besoin de savoir, le Chris de 20 ans, mais parce qu'il y a trop de trucs. Et lui dire qu'une seule chose, ce serait... Enfin, c'est con, mais une seule chose ne suffirait pas. Ouais. Éventuellement, ce serait attends moins de temps. Éventuellement, le seul truc que je pourrais lui dire, c'est attends moins longtemps pour te lancer. Donc là, moi, tu vois, YouTube, j'ai commencé à 24 ans, je crois, et ça a mis 2-3 ans pour marcher et tout. Et je lui dis, bah, n'attends pas, en fait, lance-toi dès le départ. Éventuellement, c'est la seule chose pertinente. Parce que sinon, il y a. Tu peux pas lui dire tu vas faire ses erreurs et tout. À un moment, tu sais, les gens ils ont besoin de faire les erreurs eux-mêmes pour pouvoir s'en rendre compte. Donc, bah, mon pote Chris, tu vas faire des tas d'erreurs. Il y en a encore plein devant moi ou derrière moi qui m'attendent, quoi. Juste n'attends pas et commence le plus tôt possible. Dans tous les cas, tu feras des erreurs. Donc, essaye de t'armer, d'apprendre et du coup, lance-toi et n'attends pas 30 000 ans à essayer de procrastiner, quoi. Ouais. Voilà.
Et finalement, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit ?
Je citerai peut-être la citation de la chaîne qui est comment c'est quoi la citation de la chaîne liée en plus du coup sur la page c'était quoi c'est un proverbe japonais qui disait on apprend
on commence à vieillir quand on finit d'apprendre.
Voilà, c'est ça. Bah super, voilà, merci Stan. En même temps, il faut que les gens ils continuent à regarder des vidéos, hein, sinon c'est la fin, quoi. Donc,
ouais.
Non, mais après, en vrai, du coup, c'est un proverbe. Du coup, je trouve que c'est totalement essentiel. Ouais. Autant l'école, ça m'a pété les pieds rapidement, autant l'apprentissage, ça doit jamais arrêter. Quand tu commences à arrêter d'apprendre ou d'avoir des nouvelles compétences, ton cerveau, vraiment physiquement parlant, il commence à se cristalliser et tu finis vieux con, quoi. Et voilà.
Et bien, sur ce, merci Chris d'être venu discuter avec nous. C'était extrêmement intéressant.
Merci Stan, c'était un plaisir.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez envie de créer votre propre audience sur Internet et de gagner votre vie avec, en leur vendant des produits, ce qui est ma spécialité, moi je gagne pas mal avec la pub, j'ai gagné ma vie directement en vendant des produits à mon audience, vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr/audience et je vous explique comment construire une audience qui achète, donc comment construire une audience avec les bons principes de manière à ensuite pouvoir être capable de leur vendre des produits. C'est marketingmania.fr/audience, je vous retrouve là-bas. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.